Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour le chat, bonjour, salut Stardust, incroyable. Ça va les couper? Bienvenue à toutes et à tous, soyez les bienvenus, très content de vous retrouver. Je note que si vous êtes là dans le chat, c'est que vous n'êtes pas aux obsèques de Brigitte Bardot. Et ça ne m'étonne pas de vous. Ça ne m'étonne pas de vous. Vous n'aimez pas la France. Vous n'aimez pas la France, vous n'aimez pas la réussite, vous n'aimez pas les animaux. Voilà, ça me dégoûte. C'est tout. C'est tout. C'est pas grave, on va faire avec, on va faire avec. Quand même, entertainer tout ça, mais bon, voilà, je ne pouvais pas ne pas le noter. Merci Louis. Merci, merci, merci. Je voulais y aller, mais mon chat a vomi ce matin. Merci Marco. Merci, merci. On est bloqué par la neige. Ouais, l'excuse, elle est facile. Hein. L'excuse, elle est facile. Hein. C'était aujourd'hui, je suis un... Ouais, c'était aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est en ce moment, c'est en ce moment, c'est en ce moment à Saint-Tropez, avec Marine Le Pen, avec beaucoup de gens bien qui se sont réunis pour les obsèques de Brigitte Bardot. Mais vous n'y êtes pas, voilà, vous n'y êtes pas, vous n'y êtes pas. Je note que vous n'y êtes pas. C'est fou, ça. C'est terrible. Comment vous voulez qu'on fasse une république avec ça? Ah. Merci, Elisa. Merci, Elisa. On a raté une opportunité de networking. Oui, c'est vrai, vous avez raté ça. Merci Samuel Etienne. Merci pour ton raid. Bienvenue les raiders de chez Samuel Etienne. Je disais que Samuel Etienne n'est pas aux obsèques de Brigitte Bardot. Samuel Etienne n'est pas aux obsèques de Brigitte Bardot, ce qui prouve bien que Samuel Etienne n'aime pas la France. Voilà, il n'aime pas la France, il n'aime pas la réussite, il n'aime pas les animaux, il n'aime pas le cinéma, il n'aime pas la chanson. Voilà, c'est tout, c'est tout, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est comme ça. Et voilà. Donc, j'en ai rien à foutre. Ah bah, en plus, ah bah voilà, ça revendique en plus. Ah bah bravo, ah bah bravo. Voilà, ça préfère streamer, hein. Non, mais moi, je voulais y aller. Moi, je voulais y aller. Mais je pouvais pas parce que je devais assurer le service public du streaming. C'est ma fonction, c'est mon métier. Donc, voilà, je suis obligé. Bah, vous savez, j'ai des horaires et tout. Tout ça, c'est la loi, c'est obligatoire. Je dois streamer. Donc, j'ai pas pu aller aux obsèques de Brigitte Bardot, mais vous auriez dû y aller. C'était l'occasion de faire un stream IRL. Oh. Non, c'est glauque. Non, non, non. Un stream IRL à des obsèques, c'est glauque. Non, vraiment, c'est glauque. Déjà que c'est un peu glauque les streams IRL de manière générale. Enfin, ça dépend lesquels, ouais, je sais pas. Tu n'étais pas invité. Par ailleurs, j'étais pas invité. Mais, comme j'aime beaucoup les animaux, je me suis dit que ça aurait pu le faire, tu vois. Je sais pas, j'en sais rien. Pensez au sub au milieu des obsèques. C'est horrible. Non, c'est glauque. Non, vraiment. Moi, par contre, mes obsèques à moi, elles seront streamées. Hein. Je vous préviens. Je veux des F dans le chat pendant tout le stream. C'est horrible. Ah non, tu streames tes propres obsèques. Et abonnez-vous, hein. Et abonnez-vous, hein. J'en ai besoin pour bouffer. Important. Merci, Malénarion. Abonnez-vous pour plus d'obsèques. Non, c'est pas. Non. Le train de la hype. Les subs au premier rang. Ah, les subs seront invités. Les subs seront invités. Pas les autres. Merci Gisèle. Merci Gisèle, tu seras invité. Le corbillard de la hype, en Y, en T-Max. Cette blague est glauque. Voilà, cette blague est glauque. Fallait que je le dise. Fallait que je le dise. Il n'y a rien qui va. En tout cas, bienvenue, hein, mesdames et messieurs. Bienvenue, bienvenue, bienvenue sur ce stream, encore une fois, de service public. Vous allez assister avec joie et allégresse aux questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. La séance va commencer à 14 h. C'est quoi ce stream de gaucho LFI de merde? Oh là, oh là, tu t'es mal réveillé toi ce matin. Qu'est-ce qui va pas? Bah enfin, en ce jour de deuil, c'est pas bien. Oh. Y a rien qui va. Ah non. Non, y a rien qui va. Bonjour, au revoir. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que Trump va capturer Jean Massier? Merci Shizing. Shishing, pardon, merci beaucoup. Vous savez que la première idée qui m'a traversé l'esprit quand j'ai lu ça, c'est en vrai, j'aimerais bien faire un tour d'hélicoptère. Le mec, il se fait enlever par la CIA. Le premier truc auquel il pense, c'est oh, trop bien. Oh, on peut voir par la fenêtre et tout. Waouh. Il est trop bien l'hélicoptère. Je suis irrécupérable. C'est terrifiant. Je suis absolument irrécupérable. Je peux piloter. Hey, je peux piloter. Je peux conduire. Je peux conduire, s'il vous plaît. Un peu en ligne droite, là. Tranquille. New York en hélico, c'est sympa. Ah ouais, New York en hélico, c'est sympa. Ah oui. On voit les avgeeks. Ouais, on voit les avgeeks. On est badants quand même. Hein. Je trouve qu'on est un peu badants, les avgeeks. Homme sait faire atterrir hélico. Oui, vrai homme sait faire atterrir hélico. Oh mon Dieu. Mon Dieu, c'est saut 2025. Et en même temps, ça nous manque. Et en même temps, ça nous manque. Qu'est-ce qu'on a dans l'actualité qui est susceptible de faire l'objet de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale cet après-midi? Hier, on a eu une séance au cours de laquelle la gauche a posé des questions sur le Venezuela et Maduro. La droite a posé des questions sur la grève des médecins libéraux. Ouais, il y a aussi eu des questions sur la crise agricole qui continue. Vous savez que les mobilisations sont en cours, notamment autour de Toulouse, autour de la dermatose nodulaire contagieuse, autour du traité Mercosur qui n'est pas encore signé mais qui devrait être ratifié à la fin du mois par Ursula von der Leyen. L'Ukraine, oui, vous avez raison, l'Ukraine, non, mais bien sûr, l'Ukraine, la coalition des volontaires qui s'est réunie hier au palais de l'Élysée autour d'Emmanuel Macron et de Volodymyr Zelensky, ça peut faire l'objet d'une question intéressante, effectivement, sur l'accord sur l'Ukraine, ouais, t'as raison. D'autant que, si j'ai bien compris, Emmanuel Macron a annoncé que la France était prête à déployer des troupes françaises en Ukraine dans le cadre d'un maintien d'un traité de paix. Si un traité de paix est signé, la France ferait partie des pays qui se porteraient garant du traité de paix en envoyant des troupes sur place pour maintenir la paix. Voilà. Donc ouais. C'est les 11 ans des attentats de Charlie Hebdo. Putain, on est le 7 janvier, t'as raison, on est le 7 janvier. Ouais. Triste anniversaire de l'attentat qui a visé la rédaction de Charlie Hebdo en 2015. Ouais. Est-ce que ça va faire l'objet d'une question au gouvernement? Je pense pas. Je vois pas très très bien quelle est l'actualité du sujet compte tenu de ce qu'on a par ailleurs dans l'actu. Donc, à voir, mais je pense pas. La neige à Paris... Oui, la neige à Paris. Alors, blague à part, la neige à Paris, ça peut être un sujet pour un ministre de l'Intérieur, par exemple, pour savoir qu'est-ce qui est prévu du côté du gouvernement, des autorités préfectorales, etc., pour les opérations de salage, de déneigement. Ouais, ça peut être intéressant, ouais. Ou ministre des Transports. Oui, ou ministre des Transports, t'as raison. Non, mais oui, ministre des Transports. Non, ça a du sens. Ça a du sens. Ministre de l'Intérieur, je pensais aux préfectures, en fait, c'est pour ça, ministre de l'Intérieur. Mais t'as raison, ministre des Transports, ça a du sens. Euh... Les gens dans la rue. Les gens dans la rue, il y a déjà eu une question qui a été posée hier sur le plan grand froid qui a été déclenché tardivement par le gouvernement dans certaines communes et dans certaines régions. Les morts de la rue, ouais, on en a déjà parlé hier. Du coup, c'était le ministre du Logement, là, pour le coup, qui s'est exprimé. Trump qui se fout publiquement de Macron sur le prix des médocs. Oui, Donald Trump, en conférence de presse, a ressorti un truc qu'il avait déjà sorti il y a quelques semaines, une espèce de conversation qu'il aurait eue avec Emmanuel Macron. Alors je mets des guillemets parce que bon, toujours pareil avec Trump, on ne sait jamais très bien de... Voilà. Mais Donald Trump se targue d'avoir réussi à tordre le bras d'Emmanuel Macron sur le prix des médicaments qui vont augmenter en France. Grâce à l'intervention de Donald Trump, qui estime que, je sais pas, l'industrie pharmaceutique américaine ne gagnait pas assez d'argent, ou je sais pas quoi, j'en sais rien. J'ai pas très bien compris, je vous avoue, le mécanisme du bordel, mais bon. À voir. C'est pas le gouvernement qui déclenche le plan grand froid, mais nice fake news. C'est qui alors? C'est qui déclenche le plan grand froid? Pour moi, c'est les autorités, c'est la préfecture. Préfecture de région. En lien avec les collectivités. Dans son allocution, il ne parlait pas uniquement de Macron, il a cité Macron après. Il a parlé de l'Europe en général. D'accord, ok. Ok. Pourquoi Trump aime autant se moquer de Macron plus que d'autres chefs d'État? Parce que Macron est l'un des leaders de la coalition des volontaires qui négocie le traité, enfin l'avenir de l'Ukraine, quoi. Emmanuel Macron est dans un bras de fer avec Donald Trump. Merci Exodes. Exode, pardon. Merci, merci. Le préfet, d'après Google, pour le plan Grand Froid. Oui, c'est le préfet, bah c'est une autorité gouvernementale. Hein. C'est évidemment fait en lien avec le ministre de l'Intérieur. Macron est le dirigeant qui connaît Trump depuis le plus longtemps. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Oui, c'est vrai, t'as raison. Emmanuel Macron était déjà président de la République française au moment où Donald Trump a été élu pour son premier mandat. Ouais. Rappelez-vous, il l'avait invité à la Tour Eiffel. Il avait invité Donald Trump à dîner à la Tour Eiffel. Au défilé militaire aussi. Ouais, c'est vrai, t'as raison, au 14 juillet. Au défilé militaire, Donald Trump était invité d'honneur. D'ailleurs, Donald Trump, à l'époque, rappelez-vous, on en avait parlé à l'époque, Donald Trump avait tellement kiffé le défilé militaire des Français qu'il avait voulu avoir un défilé militaire aux États-Unis. T'es dit, pourquoi moi, j'aurais pas mon défilé militaire à moi? Pourquoi ces mangeurs de grenouilles, ils ont un défilé militaire qui claque et moi, j'ai pas ça? Et il a fini par en faire un pour son anniv, ouais. Ouais, je me souviens. Il a fini par Donald Trump a organisé un défilé militaire pour son anniversaire, je me souviens. Bon, ça avait pas la classe du nôtre, parce que le nôtre, c'est le meilleur, mais voilà, qu'est-ce que je te dise. Il a commencé à faire son arc de triomphe aussi. Oui, j'ai vu ça, putain! Donald Trump est en train de construire à Washington, c'est à Washington? Je crois que c'est à Washington, un arc de triomphe qui est très assumé être une copie de l'Arc de Triomphe français. Mais évidemment, vous vous doutez, plus grand, plus large, plus haut, plus beau que l'Arc de Triomphe français. Espèce de jalousie mal placée, un peu nulle, pour dire, ouais, je veux faire mon Arc de Triomphe. Non, mais... tu les as faites, toi, les conquêtes napoléoniennes? Non? Bon, bah alors, qu'est-ce que tu veux triompher, quoi? Donc voilà, donc Donald Trump, il veut son défilé militaire, il veut son arc de triomphe. Il est jaloux de la France, on peut le dire. Il est jaloux de la France. Avec des flammes sur les côtés et tout, je sais pas. Qui n'est pas jaloux de la France? C'est vrai ça, qui n'est pas jaloux de la France? On a Georges Clooney maintenant. Hein, les autres, vous n'avez pas Georges Clooney, vous? Ah bah voilà. Ah bah c'est français. Niquez-vous. Ma France à moi, elle parle fort. Ouais. J'ai vu qu'Emmanuel Macron voulait inscrire les bistrots français au patrimoine mondial immatériel de l'humanité. J'ai vu ça hier soir. Voilà. Apparemment, Emmanuel Macron émettrait le souhait que machin. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas, je m'en fous. Au demeurant, je m'en branle pas mal. Mais je me suis dit, c'est quand même bizarre que. Pardon, on a quand même un chef d'État étranger qui s'est fait enlever. On a la coalition des volontaires qui s'est réunie au Palais de l'Élysée sur le dossier ukrainien. Enfin, je veux dire, il y a deux, trois dossiers dans l'actualité, là, qui nécessitent davantage une prise de parole du président de la République. Donc, la question de savoir si les bistrots doivent être au patrimoine mondial de l'humanité, tu vois. Bon, mais pourquoi pas, au point où on en est. Les bistrots, grande priorité du quinquennat. Ah ouais. Non, mais moi, je pense que. Alors, moi, je veux bien hein, qu'on inscrive les bistrots français au patrimoine mondial immatériel de l'humanité, de l'UNESCO, à condition qu'on rajoute aussi le débat politique au bistrot. Ah bah ouais. Non, mais parce que c'est ça, l'art du bistrot. C'est pas juste un bar en zinc sur lequel tu vas boire un petit ballon de rouge. Non, 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 non. Le bistrot, c'est. C'est une âme, c'est une culture, c'est un savoir-faire. Voilà, il faut des débats politiques de mauvaise foi, il faut de l'exagération, il faut de la caricature, il faut. Voilà, non, quand même, on se respecte. Le bistrot, c'est Dédé qui explique qu'à son époque, c'était mieux et que de toute façon, tout se pourrit. Voilà, c'est ça. Non, non, il y a un art. Il y a un art du bistrot qui, à mon avis, oui, il faut inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça me paraît important de préserver cette culture. Alors moi, j'ai proposé qu'on inscrive la division de la gauche au patrimoine mondial de l'UNESCO. Parce que ça me paraît aussi un truc, voilà, c'est un peu éternel, c'est un peu ancré aujourd'hui dans les esprits. Il faut protéger la division de la gauche. C'est une culture. Voilà. C'est culturel. Mais oui, c'est culturel. C'est pas spécifiquement français, la division de la gauche. Ah non, non, je reconnais, c'est pas une culture propre à la France. Mais c'est pour ça, c'est du patrimoine de l'humanité. La division de la gauche, c'est partout, tout le temps. C'est formidable. Pas sûr qu'elle ait besoin d'être protégée, cette division. Ah, elle se porte très bien. Elle n'a pas besoin de l'UNESCO. Elle n'a pas besoin de l'UNESCO pour continuer à exister, à fonctionner comme elle fonctionne. Voilà. Non, non, non. Oui, t'as raison. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Alors le budget, non, quand même le budget, le budget, le budget. Préparez-vous, le budget. Vous allez en entendre parler sur cette chaîne. Abonnez-vous. Vous allez en entendre parler parce que là, on est reparti dans un marathon budgétaire. Enfin, peut-être probablement pas un marathon vu que ça va probablement finir en 49-3. Mais le budget a fait l'objet d'une réunion hier autour de Sébastien Lecornu. auquel, à laquelle étaient invités à participer les formations politiques de l'Assemblée nationale. Toute la gauche, à l'exception du Parti socialiste, a refusé de participer à cette réunion. Je ne sais pas si cette réunion a permis d'obtenir des arbitrages particuliers ou quoi que ce soit, ou qui que ce soit. C'est encore un peu flou, je vous avoue, la direction dans laquelle on se dirige. On verra. On verra comment tout ça se termine, on verra quelle est la mouture du budget hein, qui est choisie par le gouvernement. Est-ce que le gouvernement décide de conserver des arbitrages qui avaient été rendus en décembre dernier dans la tentative d'accord à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'ils font un pas de plus en direction du Parti socialiste? Toute la gauche, c'est-à-dire il ne reste plus grand-chose. Bah quand même, la gauche à l'Assemblée nationale, c'est la France insoumise, le Parti communiste et les écologistes. Ça représente 120 députés, 130 députés. Pourquoi ça finira en 49-3 et non en tentative de vote à répétition jusqu'à trouver un accord? Parce que ça marche pas comme ça, on fait pas des votes à répétition jusqu'à trouver un accord. On vote une bonne fois pour toutes sur un texte avec lequel on est d'accord ou pas d'accord. Quand on vote, et je vous rappelle, pour mémoire, que les tentatives de faire adopter un budget en décembre dernier, il y a littéralement 3 semaines, hein, ont échoué. Donc pour moi, je suis désolé, basiquement, je me mets à la place de Sébastien Lecornu. Là, il n'y a pas trop de choix. Si on veut que la France ait un budget, il faut un 49-3. On a essayé sans 49-3, on n'a pas réussi. On prend un 49-3. Après tout, François Bayrou avait réussi à faire adopter un budget avec un 49-3. Si 49-3, motion de censure, puis dissolution. Oui, Marion, mais encore faut-il que le 49-3 soit adopté. Que la motion de censure soit adoptée. Or, si Sébastien Lecornu réussit à faire ce qu'avait réussi à faire François Bayrou, ça voudra dire qu'il réussira à éviter la motion de censure, donc pas de dissolution. C'est risqué le 49-3. Ah bah c'est très risqué le 49-3, n'est-ce pas Michel Barnier? Comment il va? Ça fait longtemps, hein? Pardon. Ouais. Oui, le 49-3, c'est risqué. Bah évidemment, le 49-3, c'est risqué puisque tu ouvres la porte à l'adoption d'une motion de censure. S'il y a un 49-3, il perd les socialistes. Et s'il perd les socialistes, motion de censure. La motion de censure a ce qu'il faut pour passer. Alors, je suis curieux de savoir si les socialistes voteraient une motion de censure en cas de 49-3. J'en suis pas convaincu. Parce que la menace de censurer des socialistes en cas de 49-3, elle était valable en décembre dernier. Est-ce qu'elle est encore valable en janvier 2026? Je suis pas sûr. J'en sais rien. Et voilà, ça y est, j'ai envie d'interviewer Olivier Faure. Alors, monsieur Faure, qu'est-ce qu'on fait? On censure ou on censure pas s'il y a un 49-3? Je sais pas. Est-ce que c'est possible qu'un budget soit voté et par le PS et par LR? Ça a très peu de chances d'arriver. Alors, c'est arrivé sur un budget de la Sécurité sociale. Rappelle-toi, en décembre dernier, le budget de la Sécu a été adopté avec les voix du Parti socialiste et la moitié des voix des Républicains. Malgré la consigne du parti de ne pas voter. Hein. Mais ça, c'est les Républicains, ça, on adore. Est-ce qu'un budget de l'État peut être adopté à la fois par les Républicains et par le PS? Ça me paraît improbable. Après, circonstances exceptionnelles, on verra. Joli le RP tout quand tu parles de sécu. Ouais, faut que j'aille voir le médecin. C'est voté quand le budget? Ben j'en sais rien, c'est encore en train d'être défini. Probablement, je dis bien probablement, fin janvier, début février, dans ces eaux-là. On verra si c'est un vote ou un 49-3, ça, abonnez-vous, abonnez-vous. On va suivre ça de près, évidemment. Il peut y avoir des frondeurs au PS, certains vont voter la motion, d'autres non. Oui, c'est toujours possible, surtout que le Parti Socialiste nous a habitués, dans sa longue histoire, à des histoires comme ça. Mais je note quand même une assez bonne discipline de groupe des socialistes à l'Assemblée sur les questions budgétaires. Enfin, je veux dire, l'année dernière, les socialistes ont massivement voté le budget de la Sécu. Je crois qu'il y a 3 socialistes qui ne l'ont pas voté, tu vois. Sur 70 députés, c'est pas le bout du monde. Hein. Donc, bon, faut voir. Est-ce qu'en cas d'attaque contre le Groenland, ça peut rebattre les cartes en France ? C'est toujours pareil, c'est que... C'est tellement difficile à imaginer. Ça veut dire, ça veut dire quoi, une attaque du Groenland ? Qu'est-ce que ça impliquerait ? Est-ce que ça impliquerait une entrée en guerre des pays européens contre les États-Unis d'Amérique ? Auquel cas, ouais, ça peut changer la donne. Ouais, ça peut changer la donne au niveau mondial. Ça peut changer la donne dans tous les pays du monde. Enfin, c'est... Ce serait gravissime, ce serait terrible, ce serait une très mauvaise nouvelle, ce serait plein de choses. Et oui, dans un cas de conflit armé, c'est déjà arrivé en France qu'on ait des coalitions transpartisanes. C'était le cas pendant la Première Guerre mondiale, je vous rappelle. Merci, Bafquet. Première Guerre mondiale, la France était gouvernée par ce qu'on appelait l'Union sacrée. L'Union sacrée pour la patrie. Il n'y a plus de gauche, de droite, de je ne sais pas quoi. Il n'y a que des Français. Et on fait un gouvernement avec tout le monde. Bon, ça a duré le temps que ça a duré, mais... Et puis, il fallait voter des crédits de guerre, etc. Donc, est-ce que l'immixtion d'un conflit armé peut changer la donne ? Bien sûr, ça peut tout changer. L'OTAN ne va jamais entrer en guerre contre les US, sur ça il n'y a aucun doute. Non mais c'est pas le sujet. Si les États-Unis entrent en guerre contre un pays de l'OTAN, virgule, l'OTAN disparaît immédiatement. L'OTAN n'existe plus, c'est fini. Enfin, l'OTAN, ça n'a plus aucun sens. C'est une alliance militaire. Si t'as des membres de l'alliance et notamment le premier financeur qui en attaque un autre, c'est la fin de l'alliance terminée. Bah, c'est déjà arrivé dans l'histoire hein, que des alliances, des alliances internationales soient rompues par une invasion militaire. Bah, oui. On était copains jusqu'à hier matin, mais là, depuis que tu m'as tiré dessus, c'est terminé en fait. Pourquoi ce serait pas juste les États-Unis qui quittent l'alliance ? Parce que ça n'a aucun sens. Comment dire ? L'OTAN, c'est les États-Unis. Voilà. Les États-Unis ne peuvent pas quitter les États-Unis, ça n'a pas de sens. L'OTAN est financée d'abord et avant tout par les États-Unis. L'OTAN est une alliance militaire entre des pays dont l'un a une puissance militaire tellement stratosphériquement supérieure à tous les autres, y compris réunis, que... Voilà. Par contre, si... Alors c'est la politique fiction, mais si l'OTAN disparaît, d'autres alliances militaires peuvent exister. Par exemple, une alliance européenne. Bah oui, c'est con, mais les pays européens vont se retrouver, vont se réunir. On est potes, on est copains, on est ensemble, on travaille ensemble, on y va, on avance. Donc oui, il y aura probablement, ça s'appellera plus l'OTAN, ça s'appellera l'Alliance européenne, ou j'en sais rien, je sais pas. On verra quel nom on lui donne. Peut-être que nos amis canadiens seront invités à participer à cette alliance. Peut-être que d'autres pays dans le monde seront invités à participer à cette alliance, sans les États-Unis. L'OTAN sans les US, c'est l'Union européenne. Oui, c'est ça. En gros, c'est ça. L'OTAN sans les États-Unis, c'est l'Europe. Alliance européenne sans les USA, avec quelles armes? Eh bah, avec nos petits bras musclés d'Européens. Ah non, non, mais je te garantis que ça va pas être simple, hein. Je suis pas en train de vous dire que je suis pas en train de vous dire qu'on peut remplacer l'OTAN par une alliance européenne de défense, hein. Ça n'aura pas la même gueule, ça n'aura pas la même puissance, ça n'aura pas du tout. Mais c'est peut-être tout ce qui nous restera. J'en sais rien. Il y a peut-être un moment, là on peut faire les marioles à réfléchir sur la géostratégie et tout, il y a peut-être juste un moment où on sera dos au mur, on n'aura plus rien d'autre que nous-mêmes. Bon courage. C'est presque le cas. Bah, disons que Donald Trump fout des coups de pied dans la fourmilière otanienne à répétition depuis pas mal de temps maintenant, ouais. C'est pas pour rien que les pays européens sont en train de se réarmer. Vous savez que l'Allemagne est en train de se réarmer, elle a très largement augmenté son budget militaire. En même temps, c'était pas compliqué tellement il était bas. La France a multiplié par deux, je crois, à terme, ses investissements en matière de défense. Les autres pays européens sont sur la même ligne. Enfin, on est tous en train de se réarmer en Europe, en partie parce que Donald Trump le demande. Il a demandé une hausse de la participation en pourcentage du PIB dans l'effort de défense des membres de l'OTAN. Et en partie aussi parce que les Européens, et ça, il suffit d'écouter ce que les Européens disent, il suffit d'écouter le chancelier allemand, le président français, la présidente de la Commission européenne, etc. L'Europe doit se défendre seule. L'Europe doit apprendre à se défendre seule. L'Europe, depuis des décennies, a le confort du parapluie américain, qui s'appelle l'OTAN. L'OTAN est en train de se retirer, disparaître, être affaibli, utiliser tous les mots que vous voulez ou tous les euphémismes. On en est à un moment où, en fait, les pays européens, ils disent, bon, bah, voilà, on reprend notre défense en main, quoi. Thomas Legrand a fait un papier sur Libé pour expliquer que le fédéralisme de l'Europe pourrait être une réponse à l'émergence des nouveaux empires. Son analyse est intéressante. Ah ouais, je l'ai pas lu. C'est le billet de Thomas Legrand d'aujourd'hui? Je l'ai pas encore lu. Ok. Penses-tu que l'ère post-Trump pourra rebattre les cartes? Oui. Alors, le problème, c'est que enfin, oui, bien sûr. Le problème, c'est l'indécision et l'imprévisibilité. Les États-Unis nous ont déjà fait le coup. Les États-Unis nous ont déjà fait le coup. Ils ont élu Donald Trump qui a foutu le bordel pendant 4 ans. Puis ils ont élu Joe Biden qui a essayé de retisser les fils de la relation avec les Européens, filer un coup de main à l'Ukraine, livrer des armes à l'Ukraine, etc. Enfin, pour le coup, Joe Biden, il a plutôt fait le taf. Puis les Américains ont réélu Donald Trump. Et rebelote, Donald Trump fait n'importe quoi. Il affaiblit l'OTAN, etc. Il menace le Groenland. Enfin, bon, qu'est-ce qui va se passer demain? J'en sais rien. Est-ce que nous, les Européens, on peut se permettre d'attendre, de voir? Qui sera le prochain président américain, si c'est un taré ou pas un taré? C'est un peu dangereux de mettre son avenir entre les mains du hasard, quoi. Donc, merci, Uvi. En cas d'implosion de l'OTAN, la position du Royaume-Uni sera très inconfortable. Il faudra choisir un camp entre l'Europe et les USA. Oui, je suis d'accord avec toi. Et j'espère que nos amis britanniques choisiront l'Europe. Indépendamment de la question de l'Union européenne, qui est un sujet secondaire, c'est pas le sujet. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Pardon, à mes souhaits. Non, c'est pas. Bref. trouve ça fou quand même que Trump menace le Groenland comme ça et que les réactions ne semblent pas fermes sur le plan international. Bah, les réactions sont fermes, mais pour l'instant, pour l'instant, ce ne sont que des mots. Pour l'instant, ce ne sont que des mots. Il y a un communiqué de presse de l'Élysée qui est sorti hier sur la question du Groenland. Il y a des communiqués de presse communs qui ont été signés par les chefs d'État européens qui sont sortis aussi. Bon. On condamne, mais tu veux faire quoi de plus ? Sanctionner quelqu'un dont on dépend autant. Mais oui, non, mais t'as raison. T'as raison. Non seulement on dépend encore beaucoup des États-Unis, notamment en matière de défense, mais par ailleurs, on ne fait pas le poids face aux États-Unis. Ne faites surtout pas l'erreur de croire que les pays européens font le poids face aux États-Unis d'un point de vue militaire. Pas du tout. Absolument pas. En mettant la bombe atomique de côté. On met la bombe atomique de côté. Enfin, bon, ça a sa propre logique, c'est un peu particulier, mais sur un conflit conventionnel, voilà. Est-ce qu'un pays ou une alliance pourrait faire le poids contre les USA ? Sur un conflit conventionnel entre des forces armées comparables, non. Personne au monde ne fait le poids face aux États-Unis. C'est de très très loin la première armée du monde, en termes de matériel, de technologie, d'hommes, de machin et tout. Alors d'hommes, peut-être pas, parce que la Chine a quand même beaucoup de soldats, mais c'est pas... La Chine n'a aucune expérience du combat, aucune. On ne sait même pas si leur matériel est OK en condition de combat. Oui, tu as raison. Oui, tu as raison. C'est un élément que les analystes militaires prennent en compte. C'est de dire que la Chine, vous savez que la Chine s'arme considérablement. Ils ont de plus en plus de technologies, d'avions de chasse, etc., sous-marins, tout ça. La Chine n'a pas du tout l'expérience et l'expertise du feu, du combat. Donc, ils ont du matériel tout neuf, c'est cool. Est-ce qu'ils savent s'en servir ? C'est pas certain. Les Américains, malheureusement, ils ont beaucoup de retours d'expérience. Du bon comme du mauvais, d'ailleurs. La force de l'armée américaine, c'est sa capacité de déploiement dans le monde entier, sur toutes les terres, les mers et même dans l'espace. Personne ne leur arrive à la cheville de loin. Ouais. Oui, c'est vrai. La capacité de projection des États-Unis d'Amérique est délirante. La compétence de l'armée américaine dans sa capacité à mener des opérations militaires ciblées, précises, dans des conditions difficiles, etc., est parmi les meilleures. Ça ne veut pas dire que l'Europe est nulle. Ça ne veut pas dire que l'Europe est nulle, ça ne veut pas dire que les autres pays sont nuls ou qu'ils ne savent rien faire, etc. Sur des points très particuliers, il y a des savoir-faire qui existent aussi en Europe. Mais les États-Unis, oui, je suis d'accord avec toi, de très très loin. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'opération de bombardement de l'Iran qui a eu lieu l'année dernière. Les Américains sont allés bombarder des installations du programme nucléaire iranien. C'était une opération militaire d'un niveau de technicité stratosphérique. Personne d'autre que les États-Unis ne sait faire ça. Faire traverser la moitié du globe à des bombardiers, en les ravitaillant, de nuit, tout ça, machin, pour aller frapper très précisément des installations, des machins, puis faire le voyage retour. Personne ne sait faire ça. Le B2. Ouais, il y a Stardust dans le chat. Il y a Stardust dans le chat qui est un vidéaste, un YouTuber spécialisé sur les questions aéronautiques et spatiales, qui a fait des très très bonnes vidéos, qui n'a fait que des très bonnes vidéos d'ailleurs, dont une vidéo sur le bombardier B2, qui est un bombardier américain, que seuls les Américains ont, et que seuls les Américains savent opérer. Allez voir son documentaire, vous verrez, c'est hallucinant. Genre, la France sait pas faire ça. Non. Ah, non, non, la France ne sait pas envoyer des dizaines de bombardiers à l'autre bout de la planète, aller-retour, avec des ravitaillements en cours de chemin et tout machin, pour aller larguer des bombes. Non, ça, la France sait pas faire ça. La France sait faire des opérations impressionnantes. Au Mali, par exemple, l'intervention au Mali a été saluée par des analystes du monde entier en disant, putain, la France, il y a un savoir-faire français quand même assez particulier. Mais non, non, ce type d'opération-là, non. La France a fait un exercice de la France au Pacifique avec multi-ravitaux, mais pas en opération. C'était la France seule ou c'était la France dans le cadre d'un exercice de l'OTAN? Je ne sais pas, tout à fait pareil, hein. C'est là que vous voyez l'intérêt de l'OTAN, en tout cas d'une alliance militaire. Oui, c'était des rafales. Ok. Et c'était seul. D'accord, ok. Eh bien, vous voyez, la France s'entraîne. La France s'entraîne à faire ce type d'opération. Si jamais un jour on en a besoin. Mais c'est comme, enfin, l'opération, on commence, j'ai vu quelques analyses qui sont sorties de l'opération militaire à Caracas pour enlever Nicolas Maduro. D'un point de vue strictement militaire, tous les pays ne sont pas capables de faire ça. La précision des frappes, le savoir-faire des opérations spéciales, enfin de la Delta Force, etc., pour aller chercher Maduro, le niveau de qualité du renseignement qu'avaient les Américains pour aller précisément chercher Maduro là où il était et tout. Enfin, c'est tout le monde ne sait pas faire ça. Enlever un chef d'État étranger, c'est pas un truc facile. La rapidité d'exécution, ouais, la rapidité d'exécution de nuit et tout, les hélicoptères, les avions, les machins. Enfin, d'un point de vue logistique, d'un point de vue de préparation, l'impérialisme américain peut s'appuyer sur un savoir-faire militaire et des moyens militaires absolument délirants. C'est ça l'Amérique. Enfin, les États-Unis, pardon. Malheureusement, c'est ça l'Amérique. Personne ne devrait savoir faire ça, c'est trop de pouvoir, ça tourne au vinaigre à chaque fois. Ouais, carrément. Donc, putain, on est parti loin dans la discussion. On est parti loin dans la discussion parce qu'on parle du Groenland, et à mon avis, malheureusement, 2026 va être une année au cours de laquelle on va beaucoup parler du Groenland. Et ça me fait chier. Enfin, je préférais qu'on en parle moins, dans le sens où je préférais qu'on ait moins de menaces sur un territoire sur lequel, enfin voilà, européen, quoi, de la part des États-Unis. Mais malheureusement, la réalité, c'est qu'on en est là, avec l'autre dégénéré à la Maison-Blanche. Garder en tête simplement les forces en présence et le fait que, bombe nucléaire mise de côté, non, l'Europe ne fait pas le poids un quart de seconde face aux États-Unis d'Amérique. Et je prie pour ne pas connaître de mon vivant une guerre ouverte entre les États-Unis et l'Europe. Vraiment. Bon. Mais bon, mes prières, voilà. C'est pour ça que ce qui se passe est grave. C'est pour ça que, effectivement, je suis comme vous. Moi, je lis, je suis attentif à ce que disent les capitales européennes, aux relations, entre l'Europe et les États-Unis. Viens à Annecy, jamais ils taperont aussi près de Genève. Non, on leur a donné la statue de la liberté quand même, ça compte. Bah en plus, enfin, alors là pour le coup c'est un peu c'est de l'histoire et de la culture, mais l'Europe et les États-Unis sont des peuples amis. Historiquement, on n'est pas adversaire. Enfin, je veux dire, on est dans le même camp. Merde, c'est des Européens qui ont construit les États-Unis d'Amérique. C'est des immigrés européens qui ont... Enfin, je sais pas, c'est... L'Amérique est venue à la rescousse de l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. On n'est pas... On va pas se foutre sur la tronche. Je veux dire, ça a pas de sens. L'amitié franco-américaine, elle existe, elle est cohérente. On a une histoire, on a une culture, on partage des choses. C'est pas complètement... Alors, OK, les Américains nous font marrer sur plein de points, ils nous font flipper sur beaucoup de points aussi. Peut-être que nous aussi, les Européens, on les fait flipper sur plein de points. C'est pas grave. Mais, enfin, bon... Les Russes, c'est des amis ou pas? Mais oui, les Russes, c'est des amis. Enfin, je vais dire pareil sur les amitiés entre les peuples, sur l'histoire croisée des peuples du monde. Je suis désolé, le fait que la Russie envahisse l'Ukraine, c'est absurde. Le peuple ukrainien et le peuple russe sont des peuples frères. Enfin, c'est pas, enfin, cette espèce de haine recuite, refabriquée par Poutine dans une espèce de narration absurde, enfin, c'est ça aussi la guerre. C'est ça aussi la guerre. Mais de la même manière que les Français et les Allemands sont des peuples amis, le fait qu'on se soit foutu sur la tronche pendant un siècle de guerre, qui a eu des millions de morts de part et d'autre, c'est une balafre sur l'histoire de l'Europe, ce qui est notre histoire. Notre histoire est autant allemande que française. Donc heureusement qu'il y a l'amitié franco-allemande aujourd'hui, évidemment que les Allemands sont nos amis, heureusement qu'on aime la chaîne Arte. Je veux dire, c'est le sens de l'histoire, c'est le sens de l'amitié entre les peuples. Moi, il est hors de question que je me batte contre un Allemand. Jamais. C'est plutôt crevé. Je ne me battrai pas contre un Allemand. Ça va pas ou quoi? C'est des potes. On est ensemble. Enfin. Alors, c'est peut-être naïf. Sans doute, la réelle politique viendra ramener tout ça, la question des ressources, la question de la puissance, machin et tout, évidemment, comme à chaque fois. Mais enfin. L'histoire de l'Europe et l'histoire des États-Unis, c'est d'abord une histoire d'amitié. On va pas se mettre sur la tronche, c'est quand même trop con. Enfin bon, je dis ça à Donald Trump, je dis ça à Donald Trump qui est un espèce de néoconservateur taré, fascisant. Pour lui, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Bon, ok, si tu veux. Hein. C'est Trump le vrai problème, pas le peuple américain. Bah ouais, non, mais oui, je suis d'accord avec toi. Ça fait chier d'avoir Donald Trump à la Maison Blanche, quoi. Franchement, on mérite mieux. Quand je dis on, c'est le monde entier. Mais nous aussi, les Européens, je sais pas, on mérite un interlocuteur de qualité avec qui on peut discuter. Et si des fois on a des désaccords, ça peut arriver, c'est pas grave, c'est des relations internationales. Bah je sais pas, venez, on se met autour d'une table et on discute, en fait. Ça s'appelle le droit international, ça s'appelle les Nations Unies. On se donne un cadre de discussion, de collaboration, on signe des traités, on se met d'accord, on... Putain, on menace pas le Groenland, on menace pas le voisin, quoi. C'est plus rapide de faire un tweet. Ah bah c'est sûr, c'est moins chiant, ouais. Le Groenland en plus, non mais quelle lâcheté, baf. C'est ça l'impérialisme américain, c'est vraiment ce territoire m'intéresse, donc ce territoire est à moi. Ben non. Je reviens, on discute en fait. Enfin, je sais pas si des entreprises américaines veulent investir dans l'extraction des ressources du Groenland, on peut en discuter. Je veux dire, on n'est jamais fermé à la discussion, tu vois. Enfin, à partir du moment où il y a des retombées économiques pour les Groenlandais, à partir du moment où tout ça est bien partagé, c'est réglo et que tout le monde est d'accord, bah, on peut signer des contrats. Je veux dire, ça existe dans d'autres domaines. C'est fou. Le soi-disant prix Nobel de la paix. Non, non, il n'est pas prix Nobel de la paix. Il a reçu le prix de la paix de la FIFA, qui est un prix beaucoup plus prestigieux que le prix Nobel de la paix. On s'est tous mis d'accord sur le fait que c'était la version qu'on disait à Trump. Mais tout le monde sait que c'est pas vrai, mais On lui a dit ça et il faut garder le secret, d'accord? Donc c'est le prix de la FIFA de la paix, c'est waouh, bravo hein. Ah c'est mieux que le Nobel. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Nobel, il est mort alors que la FIFA était encore en vie. La séance des questions, merci Anamisa. La séance des questions au gouvernement va commencer dans 10 minutes. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Installez-vous confortablement. Nous allons suivre en direct ensemble cette séance à l'Assemblée nationale. Quels vont être les sujets qui vont être abordés aujourd'hui? Peut-être la question du Groenland. Peut-être la question du Groenland, compte tenu des déclarations de Donald Trump. Peut-être les négociations sur l'Ukraine suite à la réunion de la coalition des volontaires au Palais de l'Élysée qui a eu lieu hier. Est-ce que ça a encore lieu aujourd'hui? C'est sur 2 jours, je ne sais plus. La question du Mercosur, ouais, la question du Mercosur va probablement être abordée aujourd'hui avec Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, qui va s'exprimer sur la crise agricole. Didadidadoum. Merci à Crocaiser. La question des transports quand il neige. Alors oui. La neige qui paralyse une partie des infrastructures de transport, c'est un sujet qui peut être abordé pendant les questions au gouvernement. Ministre des Transports, ministre de l'Intérieur, à voir qui répond. Mais oui, le fait que les réseaux de bus sont paralysés, les trains aussi, je crois, sont retardés. C'est dangereux et difficile de circuler en voiture et tout. Donc oui, c'est un sujet. C'est un sujet. Complètement. Bonjour tout le monde, je débarque un peu. Qui pose les questions? Des députés au gouvernement? Les sujets sont prévus à l'avance? Ça a un lien avec combien ça a lieu tous les combien cet exercice? Salut, bienvenue à toi! Ce sont les députés qui posent des questions au gouvernement. Est-ce que les sujets sont prévus à l'avance? Non, les députés choisissent les sujets sur lesquels ils ont envie d'interroger le gouvernement. Ils sont pas obligés de prévenir le gouvernement sur les sujets sur lesquels ils vont les interroger. Ça peut être une interro surprise. Ça a lieu tous les combien cet exercice? Ça a lieu tous les mardis et tous les mercredis en direct sur la chaîne Twitch de Jean Massier. Voilà. Bienvenue à toi si c'est la première fois de ta vie. Est-ce qu'il y en a dans le chat dont c'est la première fois de votre vie que vous allez suivre la séance des questions au gouvernement? Moi, je les compte plus hein, parce que ça fait 10 ans et tout machin, mais y a peut-être des gens qui débarquent. Hein. Ah, bah, je suis très content. Bah, soyez les bienvenus, les copains. Soyez les bienvenus, les copains. Vous allez voir, c'est une séance. Attention, ce n'est pas une séance législative. Il n'y a pas de vote de loi. C'est une séance dite de contrôle de l'action du gouvernement. Ça veut dire que les députés posent des questions au gouvernement sur l'action ou l'inaction du gouvernement. Les députés ont 2 minutes pour poser leurs questions. Les ministres ont 2 minutes pour répondre, à l'exception du Premier ministre qui n'a pas de limite de temps de parole. C'est la seule exception. Et qu'est-ce que je voulais dire? S'il leur reste du temps, les députés peuvent répliquer à la réponse du ministre. Et vice-versa. Didadidadoum. Et évidemment, les députés ne sont pas des journalistes. Ils n'ont pas des questions comme ça, juste pour le plaisir de poser des questions. Les députés sont des politiques. Les députés ont des opinions. Et heureusement d'ailleurs. Et les députés défendent des opinions. Donc quand vous allez entendre des questions, ça va beaucoup être des plaidoyers politiques demandant au gouvernement « Comment se fait-il que vous ne fassiez pas ce que je préconise, monsieur le ministre ?» Ce à quoi le ministre va répondre, parce que ce que vous préconisez, c'est de la merde. Voilà, c'est un débat politique. C'est pas une conférence de presse. Voilà, c'est un débat politique dans une assemblée parlementaire. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Didadidadoum. En gros, ils vont s'envoyer des fions par paquet de 10. Non mais, je veux dire, ça peut être déceptif. Ça peut être déceptif. C'est-à-dire que vous allez voir des députés d'opposition qui vont prendre la parole et qui, pendant 2 minutes, vont dire au gouvernement « tout ce que vous faites, c'est de la merde ». Et puis, vous allez voir le gouvernement qui va répondre et qui, pendant 2 minutes, va dire « tout ce qu'on fait, c'est formidable ». Ben oui, mais c'est ça la démocratie. Enfin, c'est un échange. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. C'est pas pour rien que le député est dans l'opposition. Pas pour rien que le gouvernement est au gouvernement. Bon, ben voilà, ainsi va la vie. Les nouveaux, ne soyez pas surpris de ne pas retrouver un hémicycle pas plein. Les députés travaillent et tout se passe pas en hémicycle ni à l'Assemblée. Merci, Jostage, de le rappeler, tu as raison. Moi, j'y pense plus tellement je suis habitué, mais parfois, on a l'impression que l'hémicycle est un peu vide et on est tenté d'en tirer la conclusion que les députés qui sont absents sont des feignasses. Non. Les députés ont parfois mieux à foutre que d'être dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Ils ont plein d'autres choses à faire. Des réunions de commission, des réunions de groupe, des réunions de groupe de travail, des réunions avec leurs collaborateurs, répondre à des mails, être en rendez-vous, être en déplacement, répondre à des interviews. Enfin bref, le travail de député ne se résume pas à être présent physiquement dans l'hémicycle. Surtout que la séance des questions au gouvernement, techniquement, il n'y a rien à faire. Je veux dire, les députés n'ont pas grand-chose à faire. Ils ont juste à applaudir les copains quand ils posent une question et à dire bouh au gouvernement quand il dit de la merde. C'est à peu près tout. Bon, bah, je suis désolé, quand il n'y a rien à voter, il y a des députés qui considèrent que vous êtes gentils, mais moi j'ai du boulot. Donc ils retournent dans leur bureau et ils répondent à leurs 400 mails de retard. Voilà, c'est pas grave si l'hémicycle n'est pas plein pendant la séance des questions au gouvernement, on s'en fout. Enfin, c'est pas on s'en fout, c'est pas déterminant comme séance. C'est une séance routinière qui a lieu tous les mardis et tous les mercredis. Il n'y a pas de vote, il n'y a pas d'amendement, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de machin. C'est une séance de contrôle. Si t'es pas là, t'es pas là, c'est pas grave. Enfin, franchement. Parfois, ils ont aussi la flemme. Bah, la flemme, j'en sais rien, mais c'est vraiment mieux à foutre, hein. Vous savez, il y a des députés, je vous jure c'est vrai, il y a des députés qui se mettent dans leur bureau, ils se mettent un écran sur le côté sur lequel ils mettent la séance en direct, ils écoutent d'une oreille tout en répondant à leur mail. Voilà. Comme ça, ils suivent un peu ce qui se passe, histoire de dire, mais surtout, ils bossent en fait. Ils ont du boulot, ils sont en retard sur le rapport machin, sur le truc, sur le compte-rendu de la réunion, sur le machin, enfin, député, c'est beaucoup de travail. Donc voilà. Ils suivent la chaîne de Jean Massier dans leur bureau. Alors, vous rigolez, mais il y a des députés qui suivent ma chaîne dans leur bureau. Il y a déjà eu des députés qui lisaient le chat de ma chaîne dans la séance, sur leur téléphone. C'est déjà arrivé. Pour ceux qui s'en souviennent, les anciens de la chaîne, il y avait un député dont je tairai le nom. Quelqu'un dans le chat lui avait dit « gratte-toi le nez si tu lis mon message ». Il s'était gratté le nez. Il se reconnaîtra, je lui fais un gros bisou. Il faudrait un jour qu'on sache ce que fait un député dans une journée. Alors si ça t'intéresse, il y a des députés qui publient leurs agendas. Il y a beaucoup de députés qui publient leurs agendas. Voilà. Si ça t'intéresse, tu verras. On trouve où l'agenda ? Ben, en général, sur le site internet du député. Merci, Matak. Sur les réseaux sociaux des députés, sur le site internet du député, tu vois les agendas publics. Est-ce qu'il y avait les QAG pendant le Covid ? Si oui, c'était comment ? Alors, je me souviens qu'au plus dur de la crise, l'Assemblée avait décidé qu'il n'y aurait que 4 députés par groupe dans l'hémicycle. C'était très bizarre. Hein. L'hémicycle était pour le coup vraiment vide. Il y avait grosso modo que le ministre de la Santé qui était là pour le gouvernement. Et il y avait quelques députés par groupe avec des masques qui posaient des questions. C'était sordide. Hein. C'était sinistre. Ça n'a pas duré très longtemps, mais après, ils ont fait notamment les réunions de commission étaient en visio. Mais ouais. C'est quand le prochain backseat? Le prochain backseat, ce sera à la fin du mois de janvier, probablement le 29. On reprend le 29. Je ne savais pas, mais on peut récupérer toutes les questions au gouvernement qui ont été posées sur la dernière législature. Ça comprend toutes les questions écrites avec les réponses, il y en a des milliers. À toi, tu parles des questions écrites, parce que les questions au gouvernement, les questions d'actualité, c'est des questions orales. Mais oui, les questions écrites, il y en a des milliers. Il y a même une époque, je vous jure que c'est vrai, hein, il y a une époque où il y avait des députés d'opposition qui s'amusaient à flouder le gouvernement avec des questions écrites. Genre, ils prenaient le rapport de la Cour des comptes. La Cour des comptes faisait 90 propositions, ou préconisations plutôt, et ils faisaient une question par préconisation. Comme ça, ils envoyaient 90 courriers, juste pour faire chier. La séance est en train de commencer, mesdames et messieurs. Hop. Dilédidadoum. La présidente Yaël Braun-Pivet s'installe.
Bonjour à tous, la séance est ouverte.
Doudoudoudoudoudoudoum, voilà.
L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première va être posée par Monsieur Sylvain Carrière pour le groupe La France Insoumise.
Sylvain Carrière, député de l'Hérault.
Madame la Présidente, je tiens d'abord à exprimer le soulagement de l'ensemble de notre groupe suite à la libération de Steve Rouya et notre gratitude envers les agents de l'ambassade de France au Togo pour leur travail. Madame la ministre de l'Agriculture, depuis des années, l'opposition au Mercosur gronde dans toute la France. Les agriculteurs et tous leurs syndicats se mobilisent. Plus de 70% des Français s'y opposent. L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité notre résolution pour rejeter cet accord. On pourrait donc s'attendre à ce que le président et son gouvernement soient vent debout contre cet énième accord de libre-échange. Mais depuis 8 ans, vous êtes dans l'ambiguïté permanente. D'une semaine à l'autre, Emmanuel Macron passe du non affirmé à un avis plutôt positif. C'est en réalité une opposition de façade. Votre seule volonté, c'est de repousser l'accord pour calmer la colère des agriculteurs. Mais le report ne suffit plus. Les agriculteurs ne veulent pas mourir moins vite. Ils veulent vivre dignement de leur travail. Madame la ministre, alors que vous ordonnez des abattages et rechignez à vacciner massivement contre la DNC, pensez-vous vraiment que l'importation de 100 000 tonnes de bœuf brésilien bourré aux hormones va devenir acceptable ? Les agriculteurs ne sont pas dupes et nous non plus. Alors, que proposez-vous pour faire passer la pilule ? D'abord, plus de contrôle sur les importations. Sauf que vous avez baissé les effectifs de la répression des fraudes de 15% de 25% en 15 ans. Ensuite, des suspensions d'importation temporaires qui ne sont pas une solution à moyen terme. Et enfin, une clause de sauvegarde des mesures miroirs inefficaces qui n'empêcheront ni la concurrence déloyale, ni la délocalisation de l'élevage français.
Sylvain Carrière, député de l'Hérault du côté de Montpellier, il a 34 ans, il a été vendeur conseiller chez Jardiland et après il a été employé dans une animalerie. Près de Montpellier, il a vendu des petits chats. Il est militant écologiste, il s'était opposé au TAFTA entre l'Union européenne et les États-Unis et la fameuse ferme des 1000 vaches. Il a rejoint le parti de gauche en 2013, puis la France Insoumise en 2016. Et dans la droite ligne de son engagement écologiste, il pose une question contre le traité Mercosur.
Madame la Présidente, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, j'ai entendu évidemment votre interpellation. Elle n'est pas nouvelle. Beaucoup ont des arguments identiques aux vôtres. Je veux juste rappeler la position de la France sur la négociation du Mercosur. La France est un grand pays agricole. La France considère que c'est une priorité absolue et donc la France a toujours, depuis toutes ces dernières années et notamment depuis 2024, lors du dépôt du dernier texte à Montevideo, eu une constante position qui est de dire que nous ne pouvons pas accepter l'accord du Mercosur tel qu'il est présenté aujourd'hui, notamment parce qu'il met en danger, ou il peut mettre en danger, ou peut fragiliser, ou il peut déstabiliser certaines filières. À partir de là, nous avons des exigences. Les exigences, elles sont très précises. Une clause de sauvegarde qui est opérationnelle. exceptionnel, un frein d'urgence qui permet d'arrêter l'importation dès qu'une a une filière, et on peut penser par exemple à la filière bovine puisque vous l'avez évoqué, est déstabilisée. Cette clause de sauvegarde a beaucoup évolué, y compris avec l'appui du Parlement européen qui a renforcé les éléments. Pour l'instant, nous attendons les derniers éléments, les dernières précisions, mais c'est déjà une avancée considérable.
Donc la France maintient sa position sur le traité Mercosur. Pour l'instant, en l'état, c'est non. La France ne veut pas la signature de ce traité et attend toujours des clauses miroirs qui viendraient garantir le respect des normes européennes dans les assiettes.
C'est une demande et une exigence de la France. Pour l'instant, nous considérons que les réponses ne sont pas satisfaisantes. Enfin, troisièmement, les contrôles. Ce n'est pas uniquement un problème français, c'est aussi les contrôles à l'échelle européenne. Et ce qui est important, c'est de le faire sur place, dans les exploitations et dans les unités de production, dans les pays exportateurs. De ce point de vue-là, la Commission a commencé à donner des réponses. Nous attendons des réponses opérationnelles effectives, ce qui nous conduit à dire que pour l'instant, en l'état, il n'y a pas les réponses satisfaisantes pour donner un accord à la signature du projet de traité Mercosur. Voilà.
Merci beaucoup, monsieur le ministre.
Toujours le statu quo pour l'instant.
Monsieur Jacques Auberti pour le groupe socialiste.
Jacques Auberti, député de Haute-Garonne.
Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Il y a quelques jours, le groupe La Poste a subi pour la seconde fois en deux semaines une cyberattaque importante par déni de services distribués, saturant les accès à ses activités postales et bancaires. Il y a quelques mois, ce sont certains de nos hôpitaux qui étaient touchés, voire des collectivités territoriales ou des entreprises, avec parfois le vol massif de données confidentielles de milliers de patients, d'usagers ou de clients. Ces cyberattaques interrogent l'opérabilité de la transposition de la directive européenne NIS 2, qui vise justement à les prévenir, en donnant surtout des moyens d'accompagner les structures et les services potentiellement concernés. La France est aujourd'hui le dernier pays européen à ne pas avoir transposé NIS 2. Elle s'expose aussi à une amende conséquente. En effet, rappelons le calendrier. En octobre 2024, limite fixée par l'Europe pour la transposition, le gouvernement dépose un projet de loi au Sénat sur la cyber-résilience et engage la procédure accélérée. Après la première lecture, le texte arrive à l'Assemblée. Nous sommes alors en mars 2025. La commission spéciale qui l'étudie boucle ses travaux, butant sans doute sur le nouvel article 16 bis sur la protection des messageries cryptées, adopté par le Sénat et confirmé par la commission spéciale. Ainsi, ma question est double. Peut-on considérer définitivement que le texte initial du gouvernement sur la levée du cryptage relevait bien d'une surtransposition
et Jacques Auberti, député de Haute-Garonne, il a 65 ans, c'est un ancien ingénieur informatique. Il a profité du retrait de la candidature Renaissance dans une triangulaire avec le Rassemblement national. Lors des élections, il a été le maire de la commune d'Aigues-Vives, une charmante commune qui longe le canal du Midi. Et il pose une question sur la cyberattaque de La Poste. Je précise qu'il est co-rapporteur de la mission d'information sur La Poste.
Les efforts des employés de La Poste qui, face à deux attaques, vous l'avez dit, cyber extrêmement violentes à Noël et à l'occasion de la Saint-Sylvestre, ont permis d'assurer l'essentiel, la livraison des colis en temps et en heure, et de préserver aussi plus que l'essentiel, c'est-à-dire la sécurité des données individuelles des clients de La Poste qui ont été complètement préservées. Saluer aussi à l'occasion des aléas climatiques auxquels nous ont face les postiers qui aujourd'hui aussi continuent à livrer et à faire leur travail, donc merci à eux et je pense que vous êtes tous associés. Sur le sujet que vous mentionnez, il est essentiel, la cybersécurité, c'est un enjeu régalien, c'est un enjeu économique, c'est un enjeu financier, c'est aussi un enjeu démocratique parce que parmi les attaques auxquelles vous avez fait référence, il y en a d'autres à laquelle je souhaiterais alerter la représentation nationale à l'occasion des élections aux Pays-Bas, juste avant Noël. L'ensemble des sites des partis politiques ont été attaqués également dans le cadre de cyberattaques, donc on fait face à un enjeu majeur. Évidemment, la transposition de la directive européenne à laquelle vous faites référence, elle est importante et on doit travailler sur ce sujet, vous l'avez dit, examiné au Sénat, à l'Assemblée dans le cadre d'une commission spéciale. Le changement d'équipe gouvernementale fait qu'on a repris des consultations avec les parlementaires. Je pense que vous avez été vous-même reçu par ma collègue Anne Le Hénoff dans ce cadre hier. Et évidemment, on va poursuivre le travail de transposition. Je pense qu'il faut qu'on aille même au-delà de ça. On a un vrai sujet de stratégie cyber dont on doit se saisir ensemble. Et le gouvernement s'engage à travailler sur l'ensemble des mesures qui doivent nous permettre de faire face à ce risque, je le répète, extrêmement important auquel on fait face.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le député.
Pas beaucoup d'éléments de réponse sur la transposition.
Je le répète, monsieur le ministre, il est vraiment urgent de doter la France de ce système permettant d'accompagner les structures concernées. Merci.
Merci beaucoup. La parole est à présent à monsieur Nicolas Rey pour le groupe Droite Républicaine.
Nicolas Rey, député de l'Allier.
Merci madame la présidente. Ma question s'adresse à madame la ministre du Budget. Nous sommes le 7 janvier et la France n'a toujours pas de budget. Cette situation est profondément préjudiciable pour l'action publique, pour la confiance du monde économique, pour la crédibilité de notre pays. Alors que les débats reprennent demain matin en commission, il serait irresponsable de laisser perdurer cette impasse budgétaire trop longtemps, pendant que certains continuent de refuser tout compromis. Des urgences ne peuvent pas être traitées. Je pense à nos armées qui attendent les 6,7 milliards de crédits nécessaires pour mieux nous protéger. Je pense à nos agriculteurs qui attendent des aides, des indemnisations, notamment pour faire face à cette terrible crise sanitaire. Par ailleurs, il est impératif de ramener notre déficit public sous la barre des 5%. Et pour cela, notre groupe politique l'a toujours dit, cet effort doit reposer sur la diminution de la dépense et non sur de nouvelles hausses d'impôts dans notre pays, dont le taux de prélèvement obligatoire a déjà augmenté l'an dernier de 0,8 points. Notre groupe a fait de nombreuses propositions sérieuses, chiffrées, sur les opérateurs de l'État, dont le coût a augmenté de 30 milliards en quelques années. Nous soutenons aussi la proposition du rapporteur général Philippe Juvin de réduire les crédits de nos ministères de 2%, 2 petits pourcents pour maîtriser nos dépenses, alors que les ménages, les entreprises font aussi des efforts. Nous avons fait des propositions aussi pour maîtriser les dépenses d'aide médicale d'État qui ont explosé, passant de 700 millions à 1,5 milliard. Que sont devenus les décrets de François Bayrou qui étaient signés, qui n'ont jamais été publiés en la matière? Qu'attendez-vous aussi pour mettre en œuvre les propositions responsables du rapport Stefanini-Evin, monsieur Evin qui est...
Nicolas Rey, député de l'Allier du côté de Vichy. Il a 44 ans, il est inspecteur des finances publiques à la Direction générale des finances publiques de l'Allier. Il est diplômé de Sciences Po Paris. Il s'est spécialisé en économie et en droit public. Il a également exercé comme agent comptable à la Chambre d'agriculture de l'Allier. Il est conseiller municipal de Bellerive-sur-Allier, une charmante commune de 9000 habitants près de Vichy.
La parole est à madame Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics.
Et on écoute la ministre des Comptes publics qui va répondre sur le budget. Quels sont les derniers arbitrages?
Vous dire que nous partageons pleinement, un, l'urgence de donner à la France un budget et deux, l'objectif de réduire le déficit à 5%. Vous l'avez dit, les discussions reprennent. D'abord, elles ont repris entre groupes politiques et je voulais vous remercier, monsieur le député, de votre présence hier à une réunion. J'ai entendu Jean-Luc Mélenchon dire que nous cherchions des combines. Je crois que pour tous les députés qui étaient présents, on a bien vu que ce n'est pas des combines qu'on cherchait, c'était des convergences et des solutions. Ensuite, vous le dites, les discussions reprennent en commission des finances jeudi matin. Je vous rappelle que le gouvernement n'y est pas. Nous avons proposé avec Roland Lescure de nous rendre disponibles. Le président de la commission des finances, je crois, ne souhaite pas que nous soyons là. Mais il y a un énorme travail devant nous, vous le savez, de convergence, de rapprochement. Le gouvernement a été engagé et est constant sur le sujet des économies, puisque vous parlez des économies. En 2025, je le répète, nous avons fait collectivement le plus grand effort de réduction des dépenses de fonctionnement de l'État en 25 ans. En 2026, ce même engagement est repris par ce que nous avons proposé pour la deuxième partie du budget, puisque nous avons proposé une baisse de 1,5 milliard d'euros des crédits des ministères hors ministère de la Défense. Et nous sommes tout à fait, bien sûr, engagés à ce que la réduction du déficit que nous visons en 2026 se fasse pour la moitié maximum par de la fiscalité, mais pour la moitié minimum par des baisses de dépenses. Et c'est bien là ce que nous cherchons. Et donc le compromis, vous le savez, monsieur le député, c'est pas la compromission, c'est pas l'unanimisme. C'est de la méthode, c'est des rapprochements, c'est au fond de remettre les Français et leurs politiques publiques et les services publics au cœur des discussions pour rendre l'action publique plus efficace, pour mieux l'organiser. Sur l'AME, monsieur le député,
L'AME, c'est l'aide médicale d'État. C'est une marotte de la droite.
La lutte contre la fraude, évidemment, doit primer. Et je souhaite que sur ce sujet, comme sur les autres, nous trouvions des compromis plutôt que nous alimentions des polémiques. Je sais que ce n'est pas l'état d'esprit qui est le vôtre. Et donc, continuons à travailler pour qu'à la fin, nous soignions les Français et que nous ayons les moyens adaptés à le faire. Je vous remercie.
Merci beaucoup, madame la ministre. La parole est à madame Clémentine Autain pour le groupe Écologiste et Social.
Clémentine Autain, députée de Seine-Saint-Denis.
Face à la bascule du monde, la vassalisation ne peut pas être la voie de la France et la loi du plus fort remplacer le droit international. Or, Vous êtes incapable d'opposer un refus clair à l'offensive de Trump, à l'ordre du monde qu'il veut imposer avec l'international autoritaire et réactionnaire. La capture de Maduro, au mépris des règles internationales, s'inscrit dans un bouleversement plus global, marqué par la dévalorisation des institutions onusiennes et par le retour des impérialismes. Que la France et l'Union européenne soient à ce point effacées, soumises à Trump, est le signe d'une déroute profonde. Comme si nous pouvions décidément tout avaler. De la hausse des droits de douane au bannissement du sol américain de l'ancien commissaire européen Thierry Breton, en passant par l'idée d'une Riviera à Gaza ou l'exclusion de l'Afrique du Sud de la première réunion du G20 sous présidence des États-Unis. Et aujourd'hui, si nous nous réjouissons de la perspective d'un cessez-le-feu en Ukraine avec des garanties de sécurité, mais lesquelles ? L'annonce par le chef de l'État français que des mécanismes de surveillance du cessez-le-feu seront placés sous le leadership américain a de quoi sérieusement inquiéter. Trump pour garantir l'application d'un accord du droit. Quand on n'a qu'une obsession, mettre la main sur les ressources naturelles des autres et dominer le monde, comment peut-on être digne de cette confiance ? Notre place, notre rôle, c'est d'être fermement aligné sur nos principes. C'est de proposer une coalition diplomatique et de défense pour porter une autre vision du monde.
Clémentine Autain, députée de Seine-Saint-Denis du côté de Sevran, elle a 52 ans, elle est autrice, ancienne journaliste. Elle a été codirectrice de la publication du magazine Regard. C'est la fille du chanteur Yvan Dautin. Elle a suivi des études d'histoire et a rédigé un mémoire sur le MLF. Après avoir adhéré à plusieurs mouvements de gauche radicale, elle a rejoint la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon avant d'en être conduite vers la sortie 9 ans plus tard.
Qu'allez-vous faire ? Jusqu'où ira votre esprit de soumission ?
Et elle pose une question sur l'impérialisme américain et sur l'indépendance de la France.
Nicolas Forissier, ministre en charge du commerce extérieur.
Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Clémentine Autain. Il y a dans votre question un vaste panorama de l'ensemble des enjeux et des défis qui sont posés sur le plan des relations internationales à notre pays, à l'Union européenne et à bien d'autres pays. Je voudrais juste vous répondre sur 3 points. Premièrement, et je reviens à votre évocation de ce qui s'est passé au Venezuela, la France a été extrêmement claire. Elle a rappelé que la priorité absolue, c'était de respecter le droit international, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. La position de la France, de ce point de vue, est extrêmement claire. Elle a été réaffirmée au Conseil de sécurité, pas plus tard qu'hier. Et c'est ce que nous continuerons à défendre. Même si il est évident qu'il y a une situation de fait et qu'il faut que nous accompagnions la transition démocratique de façon à ce que le peuple vénézuélien puisse lui-même se déterminer. Effectivement, la position de la France, ça n'est pas d'attendre une décision de l'extérieur, c'est que le peuple vénézuélien, et je crois qu'on se retrouve, puisse décider. Vous évoquez la surveillance sous contrainte américaine, si j'ai bien compris, de l'Ukraine. Non, la coalition des volontaires qui s'est réunie hier à l'Elysée, qui n'a jamais été aussi nombreuse en nombre de chefs d'État, d'États représentés, cette coalition des volontaires, elle a réaffirmé la volonté des Européens de soutenir l'Ukraine, de contribuer de façon très concrète à la défense de l'Ukraine. Et évidemment, cela est lié à l'existence de l'OTAN. Et l'OTAN, les États-Unis en sont membres. Et évidemment, nous avons intérêt à faire appel aux États-Unis pour nous accompagner et pour participer à cette surveillance, même si les États-Unis demandent, attendent de la France et de l'Union européenne plus d'implication. Vous connaissez bien le débat. On ne peut pas dire aujourd'hui que ça n'est pas le cas. Pour le reste, Madame la députée, et vous l'avez évoqué vous aussi, je crois qu'on sera d'accord pour dire que le droit international, le multilatéralisme doivent l'emporter. C'est la position constante de la France de défendre le multilatéralisme, le droit international, malgré le fait que certains de nos alliés, vous l'avez vous-même dit et nous vous rejoignons, sont pas tout à fait sur la même ligne. Voilà la position de la France. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent Madame Maud Petit pour le groupe démocrate.
Merci Madame la Présidente.
Maud Petit, députée du Val-de-Marne.
Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le ministre, depuis l'adoption au Sénat de la contribution dite taxe émeute, j'ai reçu de très nombreuses interpellations de mécontentement dans ma circonscription en Val-de-Marne. Les habitants comme les acteurs économiques ne comprennent pas pourquoi devaient être financés via les contrats d'assurance les dégâts causés par des violences urbaines qu'ils réprouvent comme nous tous et que surtout ils n'ont pas commises. Le dispositif introduit dans le budget 2026 prévoit en effet de rendre obligatoire une garantie émeute dans tous les contrats d'assurance dommages financés par une...
Ah, pour les commerçants qui se font péter leur vitrine.
Les estimations évoquent une hausse pouvant atteindre plusieurs points de cotisation répercutée sur l'ensemble des assurés et qui pèsera donc sur des millions de ménages. Or, cette mesure s'écarte totalement de l'esprit initial des travaux du Sénat qui visait à répondre aux difficultés d'assurabilité des collectivités territoriales et non à créer une sorte de taxe généralisée. Cela soulève deux problèmes majeurs. D'abord, un problème d'équité. Faire financer les dégradations liées aux émeutes par l'ensemble des assurés revient à faire payer à la majorité respectueuse des lois les actes commis par une minorité violente. Et pour les victimes directes, ce serait donc une double peine. Ensuite, un problème de cohérence. Les émeutes ne sont pas une catastrophe naturelle. Elles ne constituent pas un aléa, par définition non maîtrisable. Elles relèvent de l'ordre public et donc de la responsabilité de l'État.
Maude Petit, elle est députée du Val-de-Marne, du côté de Villiers-sur-Marne, dont elle a été conseillère municipale. Elle a 54 ans, c'est une ancienne responsable des ressources humaines au sein d'un groupe agroalimentaire. Elle a passé son enfance à Fort-de-France, en Martinique, avant de rejoindre Caen, en Normandie. Elle débute un engagement associatif comme bénévole du Secours populaire à Ivry-sur-Seine. Et elle pose une question sur la taxe émeute. C'est le nom qu'on a donné à une police d'assurance qui fait que les assurances, maintenant, font payer les commerçants pour le risque des émeutes qui pètent les vitrines et qu'après, les assurances doivent rembourser.
Des collectivités. Je vous remercie.
Merci, Madame la députée. La parole est à Roland.
Il y a des commerçants dans le chat.
L'économie et des finances.
Merci, Madame la présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Maude Petit. Je vais me permettre de vous reprendre un peu sur un certain nombre d'éléments de votre question. D'abord, il n'est en aucun cas évidemment question de créer une nouvelle taxe. Il est question de créer une certaine forme de solidarité entre assureurs, oui, entre ceux qui continuent, parce que vous savez que la majorité des contrats aujourd'hui intègrent une assurance anti-émeute, de ceux qui continuent à le faire, de ceux qui ne souhaitent plus le faire, avec un risque particulièrement prégnant dans nos territoires d'outre-mer. Aujourd'hui, le risque, évidemment, demain, pour les collectivités territoriales, mais aussi pour un certain nombre de commerces, c'est qu'ils ne puissent plus être assurés contre ce risque, qui est un risque réel, qui est un risque qui peut d'ailleurs les conduire, pour les activités économiques, les commerces notamment, à ne plus souhaiter s'installer. Donc il faut faire face à ce défi majeur. Et nous, on le fait en assurant une solidarité entre assureurs, oui, et en leur demandant à tous de contribuer à un fonds anti-émeute de garantie qui sera garanti par l'État, évidemment.
C'est un fonds de garantie de l'État, en fait, pour rembourser les dégâts.
Continuer à assurer des activités économiques et des collectivités territoriales, vous l'avez dit, dans ces territoires éloignés. Ça ne dédouane en aucun cas l'État de ses responsabilités. Pas plus, évidemment, qu'une assurance anti-vol ne dédouane les forces de sécurité de poursuivre les voleurs ou les forces de justice de les sanctionner. On restera évidemment extrêmement ferme sur la prévention, le contrôle, les arrestations et la sanction des émeutes. Et par ailleurs, l'État prend sa responsabilité en garantissant ce fonds. On trouve un équilibre qui me semble adapté. Même je vous vois dénier, vous n'êtes pas d'accord, mais je suis vraiment désolé de vous l'affirmer, entre solidarité entre assureurs, ceux qui prennent leurs responsabilités et ceux qui ont tendance peut-être à vouloir moins les prendre, et s'assurer qu'évidemment nos concitoyens peuvent à la fois vivre, se mouvoir, occuper des activités commerciales en toute sécurité. Merci.
Merci beaucoup, monsieur.
Courage, les commerçants.
La parole est à présent à monsieur Stéphane Viry pour le groupe Piot.
Stéphane Viry, député des Vosges.
Merci madame la présidente. Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement a récemment annoncé une mesure permettant aux salariés de débloquer jusqu'à 2000 euros de leur épargne salariale sans imposition. Une question simple se pose à cet instant. Que recouvre réellement cette annonce? Si l'idée peut paraître intéressante et répondre en apparence à un besoin de flexibilité face à des dispositifs parfois trop rigides, je m'interroge sérieusement sur l'ambition réelle derrière cette mesure. Je m'en explique. S'agit-il d'un véritable changement de raisonnement à l'égard de l'épargne des Français ou sommes-nous face à un coup de communication destiné à masquer une absence de mesures en faveur du pouvoir d'achat? Parce qu'à cet instant, des interrogations majeures demeurent quant au contenu de cette mesure, laissant à penser à une mesure qui sort du chapeau. Premièrement, concernant les conditions de déblocage, les salariés pourront-ils réellement accéder à ces fonds rapidement et simplement face aux aléas de la vie quotidienne? Je pense notamment à un accident style un ballon d'eau chaude qui tombe en panne ou une voiture qui tombe en panne, où il est nécessaire très rapidement de faire face à ce coup du sort. Deuxièmement, je m'interroge également sur le périmètre retenu. Pourquoi limiter cette mesure à certains salariés, alors que l'ensemble des Français qui travaillent sont confrontés à la même pression sur leur pouvoir d'achat, cette restriction apparaît arbitraire. Enfin, pourquoi retenir le montant de 2000 euros plutôt qu'un autre ? Monsieur le Premier ministre, à travers cette question, je me permets d'élargir la réflexion à l'intéressement, à la participation, à l'actionnariat salarié dans son ensemble. Il s'agit selon moi d'un sujet qui mérite d'être traité, d'être réintégré dans notre paysage social et sociétal. Replaçons donc au cœur de notre modèle social la revalorisation du travail, le renforcement du dialogue en entreprise et la consolidation entre le travail et le capital en lien avec les partenaires sociaux. Je ne doute pas que votre attention et votre annonce soient louables, mais force est de constater que la méthode choisie et le contenu proposé sont, comme la méthode actuelle, particulièrement glissants.
Monsieur le député, la parole est à Monsieur Serge Papin, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l'Artisanat.
Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Stéphane Viry, merci de votre question. Le partage de la valeur est une conviction ancienne pour moi et je sais qu'elle l'est aussi pour vous. En tant que chef d'entreprise à la tête d'une coopérative et puis maintenant en tant que ministre, je suis convaincu depuis longtemps que le capitalisme, c'est ce à quoi vous faisiez référence, doit être plus partageur et que le profit doit profiter mieux à tous. C'est un engagement que j'ai pris auprès du Premier ministre en entrant dans ce gouvernement. Et nous aurons d'ailleurs l'occasion, après le budget, de débattre sur cette question ensemble. Ce que je propose,
c'était quoi le sujet ?
Première étape pour répondre à un constat spécifique. Qui est celui de notre pays. Nous sommes record d'Europe du taux d'épargne et nous avons une consommation à tonnes. Pour y répondre, je propose le déblocage de l'épargne salariale à hauteur de 2000 euros pour les salariés aux revenus inférieurs à 2 SMIC. Ça concerne 60% des salariés. Et en fait, ça donne de la liberté. Les salariés qui en ont le plus besoin doivent avoir la liberté d'obtenir immédiatement du cash pour répondre à leurs préoccupations.
Vous en avez du cash, vous ?
Je me réjouis, monsieur le député, de voir que nous partageons le même objectif. Il y a une proposition de loi sur ce sujet qui est portée par la députée Sylvie Bonnet, dont je salue le travail, et que vous avez co-signée et qui sera prochainement débattue ici. Alors profitons de ce débat parlementaire pour retenir les bons critères pour que ce dispositif joue pleinement son rôle sans déstabiliser les finances des entreprises et qu'il puisse servir immédiatement aux Français. Donc moi, je me tiens à votre disposition pour débattre de ce sujet qui est un sujet d'importance. Merci à vous.
Parlons-en, débattons-en.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à présent à monsieur Sylvain Berrios pour le groupe Horizon.
Sylvain Berrios, député du Val-de-Marne.
Merci Madame la Présidente pour Horizon et Indépendants, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues. Le 24 février 2022, la Russie envahit l'Ukraine au nom d'une prétendue Grande Russie. Le 29 décembre 2025, la Chine mène des exercices militaires à munitions réelles autour de Taïwan, selon la prétendue réunification de la Chine. Le 2 février 2026, il y a quelques jours, les États-Unis enlèvent à Caracas le dictateur Nicolas Maduro, avant que Donald Trump réaffirme son ambition expansionniste sur le Groenland. Sous nos yeux, trois membres éminents du Conseil de sécurité de l'ONU piétinent sans vergogne le droit international qui est censé protéger la sécurité du monde. Nous sommes entrés dans un nouveau monde. Et ce nouveau monde est dangereux et pourrait être respecté. L'Europe et la France doivent être puissantes et être capables de le démontrer. En Europe, nos dissensions diplomatiques marquent une faiblesse. En France, les interminables tractations budgétaires signent notre incapacité à agir et à nous protéger. Monsieur le Premier ministre, à votre initiative, l'Assemblée nationale a voté, à l'exception de la France insoumise, pour doter nos armées des moyens nécessaires à la protection de la nation et à l'affirmation de sa puissance. Le monde tourne vite. Nous n'avons pas le temps de tergiverser. Dans ce contexte, Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons sans délai de pouvoir déclencher l'article 49.3 de la Constitution pour doter le pays enfin d'un budget qui
permet... Ah, on y est. Sylvain Berrios, député du Val-de-Marne, du côté de Créteil. Il a 57 ans, il a été responsable commercial chez L'Oréal, d'où la qualité de ses cheveux, bien sûr. Je rigole, j'ai pas dit ça. Ancien conseiller en communication, il demande le 49-3 pour faire passer le budget.
Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Sylvain Berrios. Je vous reconnais bien là dans la diversité des sujets abordés par votre question, mais l'objectif final qui est extrêmement précis, auquel il ne m'appartient pas de répondre, sauf que vous avez entendu tout à l'heure la réponse de ma collègue Amélie de Montchalin sur l'évolution de la discussion budgétaire qui me paraît être très claire en l'état. Juste un mot pour vous dire que je vous rejoins sur le fait que nous sommes effectivement dans un monde en pleine tension avec des sujets qui sont des sujets, je l'ai dit tout à l'heure en réponse à Madame la députée Clémentine Autain, qui sont des sujets de respect ou non de nos valeurs fondamentales, du droit international, de la primauté des peuples à pouvoir disposer de leur avenir par eux-mêmes et non sous la pression ou sous la direction d'une puissance extérieure. Et les trois ou les quatre exemples que vous évoquez, on pourrait aussi évoquer le débat qui pour l'instant ne se traduit pas dans les faits autour de la question du Groenland, ce sont des questions qui, effectivement, doivent conduire l'Union européenne. Et de ce point de vue, la France est motrice à se renforcer dans sa solidarité, dans sa capacité de renforcement de la défense et notamment de la participation à l'effort de défense et de réassurance le jour où il y a un accord de paix ou en tout cas de cessez-le-feu en Ukraine. Cette destination qui est la nôtre désormais, on doit la construire. Et encore une fois, je dois vous dire que la coalition des volontaires telle qu'elle a été réunie hier à l'Élysée avec 35 États représentés, 27 chefs d'État et de gouvernement est là pour le prouver. La France est, de ce point de vue, motrice et continuera à l'être pour faire en sorte que nous renforcions notre solidarité européenne et que nous puissions peser à la fois en matière de sécurité, à la fois sur le plan économique et commercial, mais aussi dans le cadre de l'ONU en particulier et du multilatéralisme, dans le respect, pour le respect, avec volonté de l'état de droit et du respect du droit international.
Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent Monsieur Julien Brugerolles pour le groupe GDR.
Julien Brugerolles, député du Puy-de-Dôme.
Monsieur le Ministre de l'Économie, vous avez annoncé ce week-end la diminution d'une partie du tarif d'abonnement de l'électricité par l'intermédiaire de la baisse de la contribution tarifaire d'acheminement. Mais cette baisse au 1er février ne devrait représenter qu'une dizaine d'euros par an d'économie pour les ménages, moins d'un euro par mois. Avec cette annonce, vous esquivez le cœur du débat. L'exigence de revenir sur la hausse de la TVA sur les abonnements du 1er août dernier et celle de baisser de 20 à 5,5% la TVA sur les consommations. Monsieur le ministre, avant même d'ajouter la marge des fournisseurs ou les coûts de production et de distribution, les taxes sur l'électricité représentent aujourd'hui de 30 à 35% du montant total payé par les usagers. Si vous vouliez vraiment alléger la facture d'électricité des Français, mais aussi celle de nos entreprises, de nos communes, de nos hôpitaux, de nos établissements scolaires, vous disposez de marges confortables. La vérité, c'est que les calculs budgétaires à courte vue vous empêche de faire de la baisse des prix de l'électricité un vrai levier d'économie pour les ménages, de relance de notre économie et d'atteinte de nos objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre. À l'heure où la France produit une électricité décarbonée et abondante, où plus de 3 millions de ménages sont en précarité énergétique, où notre pays perd chaque année 57 milliards d'euros pour importer du pétrole et du gaz, pourquoi refusez-vous toujours de revenir sur la TVA à 20% sur l'électricité ? Alors que le débat budgétaire reprend à l'Assemblée, allez-vous au moins soutenir le rétablissement à 5,5% de la TVA sur l'abonnement, comme il a été adopté ici en novembre dernier ? Je vous remercie.
Julien Brugerolles, 43 ans, ancien enseignant en lycée agricole, ancien collaborateur parlementaire d'André Chassaigne, dont il a récupéré le siège. Il pose une question sur la TVA, sur l'énergie.
Pour votre question qui permet de rappeler un certain nombre de choses. D'abord, vous l'avez dit, la France a une électricité décarbonée, extrêmement ambitieuse dans ses volumes, et vous avez oublié d'ajouter, et pas chère. Aujourd'hui, l'électricité en France est d'une électricité les moins chères en Europe, et c'est important. Et si c'est le cas, c'est parce que
certains de nos prédécesseurs, il y a plus de 50 ans, ont décidé de lancer un grand programme électronucléaire qui nous permet aujourd'hui de bénéficier de cette électricité abondante et pas chère. Elle nous permet aussi d'assurer la souveraineté énergétique de la France pour l'électricité, mais vous avez raison, nous dépendons encore beaucoup trop de pays importateurs pour ce qui est du pétrole. Et pour ça, il faut changer de braquet. Il faut changer de braquet sur la production, et c'est tout l'objet de la programmation pluriannuelle de l'énergie sur laquelle le Premier ministre m'a demandé de travailler. C'est tout l'objet aussi des enjeux de demande d'électrification, parce que vous le savez, une étude de RTE a été publiée juste avant Noël qui montre qu'on n'est pas encore au niveau en termes de consommation d'électricité. Et donc il faut un grand plan d'électrification. Et évidemment, les tarifs peuvent aider, mais ce ne sera pas la seule manière de s'assurer qu'on consomme davantage d'électricité, qu'on en produise davantage et que tout ça nous permette de mettre la France sur la voie de la lutte contre le réchauffement climatique. La mesure que j'ai annoncée ce week-end, c'est évidemment pas une révolution fondamentale de la tarification électrique. C'est quand même, vous l'avez dit, quelques euros par an, un peu plus pour les boulangers, on parle de 200 euros par an. Profitons-en, j'allais dire, félicitons-nous de cette mesure qui, malgré l'absence de budget, peut être mise en œuvre dès le 1er février. Le débat budgétaire, il va se poursuivre, mais je vous rappelle ce que je rappelle tout le temps. Devant chaque plus, fois un moins. Si vous voulez baisser la TVA, alors qu'on est aujourd'hui sur un déficit budgétaire trop élevé, il va falloir trouver des recettes en face. Et ça, c'est pas facile. Donc attention. Non, mais vous avez des idées, il faut qu'elles soient majoritaires, monsieur le parlementaire. Donc le débat va se poursuivre, évidemment. J'ai déjà eu l'occasion de dire les réserves que j'ai.
Ça va devenir mon gimmick. Vous avez des idées, mais il faut qu'elles soient majoritaires. C'est tout.
Ils se nourrissent au passage.
C'est tout.
Trouve très rarement sur la facture in fine. Au moins, ce que j'ai annoncé ce week-end, c'est direct du producteur au consommateur avec une baisse immédiate des tarifs. Merci.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à présent à monsieur Bartholomé Lenoir pour le groupe UDR.
Bartholomé Lenoir, député de la Creuse.
Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous parler du danger terroriste en France. Le régime épouvantable des talibans en Afghanistan, dans une lutte entre la peste et le choléra, s'attaque à l'État islamique pour garantir sa suprématie. Cette situation accélère une migration extrêmement dangereuse d'Afghans affiliés à l'EI en Europe. Je rappelle qu'en novembre, un Afghan a été arrêté à Lyon et mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes. De l'autre côté, le gouvernement allemand a suspendu il y a quelques mois le regroupement familial, ou plus précisément la réunification familiale, pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire, c'est-à-dire n'ayant pas obtenu le statut de réfugié suite à l'étude de leur dossier. Cette situation d'écart en droit entre l'Allemagne et notre pays fait de la France une destination plus favorable pour les migrants du Moyen-Orient. C'est un risque majeur pour la sécurité des Français. Je rappelle qu'en seulement quelques années, la France a accueilli plus de 100 000 Afghans. Par ailleurs, les demandes d'asile d'Afghans ont augmenté de 30% rien que l'année dernière. Dans les prochains jours, je porterai une proposition de loi visant à suspendre le regroupement familial pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire. Cette loi a pour objectif en particulier de nous aligner sur l'Allemagne. Je précise que ce serait un minimum et que nous considérons qu'il faut aller beaucoup plus loin. Enfin, nous savons que le droit européen n'a pas empêché cette suspension en Allemagne. D'autre part, nous croyons que le Conseil constitutionnel français, du fait qu'il s'agit d'une suspension, pourrait ne pas s'y opposer cette fois-ci. Ma question est simple, monsieur le Premier ministre, y seriez-vous favorable ? Je vous remercie.
Bartholomé Lenoir, député de la Creuse, il a 34 ans, il a été conseiller d'Éric Ciotti. Il est le cofondateur du fabricant de mobilier La Chaise Française. Ce sont des meubles design made in France. Vous en avez peut-être chez vous d'ailleurs.
Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés.
Et par ailleurs, il est président du groupe d'amitié avec l'Afghanistan. Sachez-le.
Il y a 11 ans, il y a eu une attaque terroriste sur les locaux de Charlie Hebdo. Vous vous en souvenez, le lendemain, c'était Clarissa Jean-Philippe à Montrouge. Et puis le surlendemain, c'était l'attaque de l'Hypercachet. Donc vous me posez une question, faites un lien très direct entre ces volumes, ces flux migratoires et la menace terroriste, très directement. Je vais vous rassurer. Depuis 2015, tout a changé dans ce pays en matière de suivi de la menace terroriste. Tout a changé depuis 2015, sous le quinquennat de M. Hollande. Et puis, avec l'élection du président Macron, nous avons renforcé significativement nos moyens de lutte contre la menace terroriste, renforcé les moyens des services de renseignement, les moyens budgétaires, les moyens de criblage, les moyens de suivi, les moyens de la coopération internationale. Les moyens de la coopération internationale ont également été renforcés en matière de renseignement et de lutte contre le terrorisme, ce qui fait que nous avons déjoué 93 attentats depuis 2012, dont 62 depuis 2017. Pourquoi je rappelle ces chiffres ? Parce que d'abord, un, vous faites un lien très, très direct entre les flux migratoires que nous maîtrisons, et la menace terroriste. Moi, je vous dis que la menace terroriste, c'est d'abord des criblages, c'est d'abord du suivi, et c'est d'abord un partenariat avec les services étrangers et des moyens renforcés pour nos services de renseignement. C'est d'abord ça. Et je vous invite, monsieur le député, sur ces sujets, quand vous parlez de menaces terroristes, à la plus grande humilité. À la plus grande humilité. Parce qu'il y a 11 ans, ceux qui nous ont attaqués et ceux qui nous ont attaqués ensuite en novembre 2015 étaient des individus qui étaient connus depuis bien longtemps et même avant 2012. Donc sur ces sujets, monsieur le député, sur ces sujets, le ministre de l'Intérieur que je suis et le gouvernement à laquelle j'ai la chance d'appartenir n'a de leçon à recevoir de personne. Et vos propos qui laissent sans arrêt entendre que finalement nous sommes dans le verbe et jamais dans l'action, ces 11 dernières années démontrent que nous sommes dans l'action et que vous sans doute êtes dans le verbe. Et il y a des liens que vous faites que je refuse bien évidemment de faire.
Merci beaucoup, monsieur le ministre.
Non, monsieur le député.
Monsieur le député.
Oui, monsieur le ministre, sauf votre respect, j'ai été très courtois dans ma question. Je vous ai posé une question, vous n'avez absolument pas répondu. L'Allemagne fait cette suspension de la réunification familiale. Ça comporte un risque majeur pour une arrivée de migrants afghans en France. Et on sait bien que sur place, l'État islamique et les talibans s'affrontent et que l'État islamique, des migrants de l'État islamique pourrait arriver en France. C'est un risque majeur. J'attendais-vous une réponse. Elle ne m'est pas venue. Je trouve ça extrêmement dangereux. Je vous remercie.
Merci, monsieur le député. La parole est à présent à monsieur Pierre Meurin pour le Rassemblement national.
Pierre Meurin, député du Gard.
Merci. Merci, madame la présidente. Bonne année à vous et bonne année à tous. Ma question s'adresse à monsieur le ministre des Transports. Chaque année, les automobilistes trinquent un peu plus et 2026 n'échappe évidemment pas à la règle. Augmentation du malus écologique, augmentation du prix du carburant de 3 à 5 euros par plein à cause de la hausse des certificats d'économie d'énergie, augmentation des primes d'assurance automobile de 5%, hausse des prix des péages de 0,9%, qui s'ajoutent, toutes ces hausses s'ajoutent évidemment aux hausses des dernières années. Les automobilistes sont les vaches à lait de la Macronie. À de tels niveaux, ce n'est plus de la fiscalité raisonnable, c'est du braquage à main armée. Depuis 8 ans, la Macronie essore méthodiquement, les automobilistes en faisant de la mobilité un luxe, alors que la voiture est un outil de vie et de survie pour des millions de Français. Alors les automobilistes savent depuis longtemps que seul le Rassemblement national les défend bec et ongle. Ma question est donc extrêmement simple, monsieur le ministre. Quel geste êtes-vous prêt à consentir à destination des 10 automobilistes pour 2026, notamment dans le cadre de l'examen du PLF? Par exemple, nous vous proposons depuis des années une baisse de la TVA à 5,5% sur le carburant. Nous proposons depuis des années pour réduire l'effet de cette double imposition scélérate TVA, TICPE. Enfin, j'ai une dernière question, monsieur le ministre.
Pierre Meurin, il est député du Gard, du côté d'Alès. Il a 36 ans, il a été directeur de cabinet d'un maire d'hiver droite en Isère. Il a surtout été le président des Jeunes pour la France, le mouvement de jeunesse de Philippe de Villiers. Il a été salarié de l'école créée par Marion Maréchal. Il a soutenu Éric Zemmour en 2009, avant de se gauchiser et de rejoindre Marine Le Pen en 2021. Il est président du groupe d'études sur la sécurité routière. Et il est membre du comité des usagers du réseau routier. Son truc à lui, c'est la bagnole.
Député Meurin, vous m'interpellez sur ce que vous qualifiez de nouvelles contraintes pour les automobilistes, je vais le dire poliment. Avant toute chose, je voudrais vous donner des éléments positifs pour les automobilistes, puisque avec Monsieur le Premier ministre, avec mon collègue Benjamin Haddad, nous avons défendu avec fermeté un sujet qui vous préoccupait, la position de la France pour nous opposer aux contraintes supplémentaires qui étaient envisagées par la Commission européenne. Notre position a été claire, pas de contraintes de plus, ni aucune dépense supplémentaire. Grâce à notre travail auprès du commissaire européen, nous avons eu gain de cause. Il n'y aura pas de contrôle technique annuel pour les véhicules de plus de 10 ans. Je sais que c'était une de vos demandes. La seule modification qui est intervenue, elle est sur le contrôle technique concernant les rappels d'airbag Takata défectueux. Je tiens à le signaler, qui sont à l'origine de trop nombreux accidents mortels. Et je pense particulièrement à nos compatriotes des départements et territoires d'outre-mer qui ont été très durement touchés. Et cela, je l'assume pleinement. Par ailleurs, le gouvernement, vous le savez, accompagne la filière automobile dans sa transition décarbonée, mais aussi les automobilistes avec des dispositifs d'aide à l'acquisition de véhicules propres. Enfin, monsieur le député, je tiens à rappeler que depuis ma prise de fonction, j'ai fait de la sécurité des automobilistes avec mon collègue de l'Intérieur une priorité, particulièrement dans cet épisode neigeux. Je veux à cette occasion saluer l'engagement des agents de l'État, des collectivités, des opérateurs qui, depuis ce week-end, pour garantir la sécurité de tous, je serai d'ailleurs dans quelques instants à leur côté. Alors, concernant les ZFE, ne vous inquiétez pas, je vais vous répondre. Je vais vous répondre, j'ai 11 secondes pour vous répondre. Pour les ZFE, je crois savoir, et je parle sous le contrôle du ministre en charge des relations avec le Parlement, que la CMP PGL Simplification est confirmée le 20 janvier. Et je crois que vous aurez l'occasion de donner votre position sur ce sujet, que je devine.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le député.
Merci, madame la présidente. L'équation est très simple, en réalité. Pour protéger les automobilistes des ZFE, il faudra absolument voter pour les listes du Rassemblement national aux élections municipales.
Évidemment, 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 bien sûr. C'était prévu, c'était prévu, c'était prévu.
Marc Ferracci pour le groupe Ensemble pour la République.
Marc Ferracci, député des Français établi hors de France, du côté de Genève,
ministre.
En Suisse.
La nuit du 31 décembre devait être une nuit de fête, de joie et d'espérance. À Crans-Montana, dans le bar La Constellation, elle s'est transformée en cauchemar absolu. La réalité est insoutenable. 40 morts, dont la moitié étaient mineurs. Parmi ces victimes, 9 de nos compatriotes. Plus de 80 blessés qui luttent encore. Derrière ces chiffres, c'est toute une génération qui est meurtrie. Aujourd'hui, je veux dire notre infinie tristesse aux familles. À tous les proches des victimes dont la vie a basculé, nous adressons le témoignage de notre douleur partagée. Face à l'horreur, la solidarité s'est organisée avec une force exemplaire. Je tiens à saluer le courage des secours et la réactivité immédiate de la coopération franco-suisse. Une coopération à la hauteur de l'amitié qui lie nos deux pays. Au travers de ce drame, Français et Suisses ont montré, une fois encore, qu'ils étaient plus que des voisins. C'est le sens de la présence du président de la République à l'hommage qui sera rendu aux victimes ce vendredi en Suisse. L'Europe de la santé a de son côté pleinement répondu présente. 35 patients ont été transférés hors de Suisse vers les pays voisins. La France a accueilli 19 blessés graves, pris en charge très rapidement grâce à la mobilisation exceptionnelle de nos services de santé, du centre de crise et de nos armées. Je veux également saluer les services des équipes consulaires pour leur engagement total auprès des familles des victimes françaises. J'ai été en contact étroit avec certaines de ces familles dans les derniers jours. Et je peux témoigner de l'appui qui leur a été apporté par notre consulat général à Genève et par notre consulat honoraire à Sion. Monsieur le Premier ministre, après l'urgence des premiers instants, vient désormais le temps douloureux des questions et de la reconstruction.
Marc Ferracci, député donc des Français de Suisse, il a 48 ans, il est économiste au Centre de recherche en économie statistique. Il est professeur en sciences économiques, il est très proche d'Emmanuel Macron. Il a été son témoin de mariage avec Brigitte. Il a été conseiller spécial de Muriel Pénicaud au ministère du Travail. Il a été conseiller aussi de Jean Castex au Premier ministre à Matignon. Et donc évidemment, il pose une question qui concerne nos amis suisses en ce moment, le drame terrible du Crans-Montana.
La parole est à Madame Stéphanie Rist, ministre de la Santé.
Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Marc Ferracci. Tout d'abord, je veux dire au nom du gouvernement la profonde solidarité envers les victimes et les blessés de ce drame. Nos pensées vont évidemment aux familles endeuillées. Dès l'annonce de l'incendie, vous l'avez dit, nos services de façon interministérielle se sont mobilisés. Nous pouvons être fiers de cette mobilisation. Je pense au ministère des Affaires étrangères et le ministère des Armées ainsi que le ministère de la Santé qui a permis d'identifier des lits disponibles, des vecteurs, des moyens pour transférer les patients nécessaires, ce qui a permis de transférer 19 patients, comme vous l'avez dit. Je voudrais saluer aussi votre mobilisation dès le premier jour, monsieur le député, de cette crise. Et cette coopération ne s'arrête pas à la phase d'urgence. Elle se poursuivra aussi longtemps que nécessaire. La France restera et reste pleinement mobilisée et prête à accueillir de nouveaux blessés si besoin. S'agissant du volet judiciaire, la délégation interministérielle à l'aide aux victimes est saisie et coordonne l'accompagnement des victimes françaises. Par ailleurs, le parquet de Paris a ouvert une enquête miroir avec la saisine des juges d'instruction afin de faciliter l'accès des victimes françaises à leurs droits et à l'indemnisation en lien étroit avec les autorités judiciaires suisses. Enfin, sur le plan humain, un dispositif de soutien médico-psychologique a été mis en place pour les blessés et les familles. Cet accompagnement s'inscrira dans la durée parce que la reconstruction, qu'elle soit physique ou psychique, prendra du temps. L'État sera présent avec bienveillance et constance, je peux vous l'assurer, monsieur le député.
Merci beaucoup, madame la ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.
La séance est terminée. Les députés vont pouvoir aller se dégourdir les jambes avant de reprendre leurs travaux. On n'a pas parlé de la neige. On n'a pas parlé de la neige au cours de cette séance de questions d'actualité au gouvernement. Alors les gens qui ont suivi pour la première fois de leur vie une séance de questions d'actualité au gouvernement, comment c'était ? Ça vous a plu ? C'était bien ? C'était chouette ? C'était comment ? Encore une fois, moi je suis matrixé. Il y a un moment, j'en bouffe depuis 10 ans toutes les semaines et tout, donc je me rends plus compte. C'est nul comme toujours, d'accord, c'est chiant, c'est plus fun le mardi, oui ça je suis d'accord. C'était pas la meilleure. Ça dépend de votre goût. Mais je m'attendais à pire, useless, d'accord. C'était quoi cette histoire de taxe émeute ? Alors j'ai pas tout compris à la taxe émeute. Mais en gros ce que j'ai compris c'est que il y a des commerçants qui n'arrivent plus à trouver une assurance. Parce que les assurances en ont ras-le-bol de rembourser, ça leur coûte très cher, les dégâts causés par les manifestations. Notamment, j'imagine, sur les axes sur lesquels il y a le plus de manifestations, etc., où les vitrines sont pétées régulièrement, sont taguées et tout. Bon. Et du coup, les commerçants se retrouvent dans la merde et le gouvernement, l'État, a créé un espèce de fonds inter-assurance pour que les assureurs s'assurent entre eux, je crois. Pour couvrir le risque. Et en plus de ça, il y aura une contribution de l'État qui va venir abonder le fonds de remboursement. Donc, ça veut dire que vous et moi, on va tous payer un peu par nos impôts pour abonder ce fonds pour rembourser les dégâts causés par les émeutes. Voilà. C'est ça que j'ai compris. Alors, arrêtez-moi si j'ai dit une connerie, mais j'ai cru comprendre que c'était ça. Avec ton explication préliminaire, c'est drôlement sympa comme un match d'un nouveau sport. Eh ben voilà, eh ben bienvenue, ça y est, tu as le virus. Ça y est, tu as le virus des QAG, maintenant tu vas regarder ma chaîne tous les mardis et tous les mercredis pour suivre les questions au gouvernement, tu vas voir, c'est très fun. C'est pas une blague, hein, c'est très fun. Aujourd'hui, c'était pas giga fun, mais des fois c'est fun. Hello, j'ai compris ça aussi. Ouais, c'est ça, c'est à peu près ça. C'est juste une excuse pour créer une nouvelle taxe. Mais non, c'est pas une excuse, puisque ça va payer des dégâts qui sont réels. Donc c'est pas un truc inventé. C'est surtout les assurances qui vont augmenter les cotises pour pouvoir payer les dégâts. Et ben ça, malheureusement, c'est le jeu de l'assurance. Hein. Les polices d'assurance, si ton commerce... Je sais pas comment ça marche, mais je suppose que si ton commerce il est à risque... Ton assurance, elle va te proposer un contrat d'assurance avec une police d'assurance un peu plus chère. Non, je suis désolé, frère, mais... on en assure d'autres dans le quartier, t'inquiète qu'on sait combien ça nous coûte à nous tous les ans. Donc tu vas payer un peu plus cher. Je pense. Tous les assurés vont payer. Tu veux dire tous les assurés, y compris les gens qui ne sont pas commerçants ? Merci Nawal, merci beaucoup. Du coup, on va payer plus cher à cause des débiles qui cassent des vitres. Ouais ? Oui, c'est ça. Tu sais, on paye déjà beaucoup pour les débiles qui conduisent bourrés. Bah oui, s'ils font des accidents, ça coûte cher, hein, les pompiers, le SAMU. Ouais, on paye avec nos impôts. Hein, c'est... Ouais. Et les fumeurs, évidemment. Mmh. les débiles qui jettent leurs mégots dans la forêt en juillet. Ouais, putain. Et ça aussi, ça nous coûte cher. Ça nous coûte horriblement cher. Vous savez combien ça coûte un Canadair ? Eh ben, allez regarder la chaîne de Stardust, vous verrez. Merci, Lonchu Rama. Merci, merci, merci. Qu'est-ce qu'on a dit dans cette séance ? Non, ouais, je vous accorde que c'était pas la plus fun des séances. Hein. On a eu des sujets techniques, c'est pas inintéressant, au contraire, hein, sur la question des automobilistes, les ZFE, le Venezuela, le Groenland. On n'a pas parlé du Groenland, on a parlé de l'Ukraine un peu. On n'a pas parlé de la neige. Alors du coup, on se posait la question, vous et moi, avant le début de la séance, de savoir s'il y aurait une question sur la neige qui bloque les infrastructures routières, etc. Bon, a priori, non. Pour les débiles qui conduisent bourrés, ce sont les assurances qui payent, pas l'État. Ah si, c'est carrément aussi l'État. Hein. Parce que l'intervention sur un accident de la route, c'est des fonctionnaires. Hein. C'est pas des agents des assurances. L'assurance, ils payent les dommages corporels et les dommages des bagnoles. Mais toute l'intervention, le SAMU, les pompiers, la police, les gendarmes qui se déplacent, qui sécurisent la zone, enfin, c'est... Oui, c'est terrible, mais c'est... Oui, c'est un accident, quoi. C'est... Oui. La banque postale. Oui, on a parlé de la poste. On a parlé de la poste et du piratage de la poste, ouais. Effectivement. La réparation du poteau, par exemple, est-ce que l'État a une assurance ? Je sais pas. Oui, les infrastructures routières, oui. Quand tu défonces une glissière de sécurité, il faut la réparer, la remplacer. Est-ce que c'est prévu dans des budgets ? Je sais pas, j'en sais rien, je sais pas. J'ai pas l'info. En Suisse, tu payes le déplacement des forces de police en cas d'accident. Ouais, alors, je ne sais pas pour la Suisse, hein, j'ai pas la data, mais je sais que ça, c'est un sujet que j'avais vu en économie qui est assez intéressant. C'est, en fait, si tu fais payer aux gens l'intervention des forces de l'ordre, ça a un effet direct, c'est que les gens appellent moins les forces de l'ordre. C'est tout. Si, parce que, en fait, c'est la prévision du fait que ça va te coûter un fric fou. C'est comme les Américains qui appellent pas l'ambulance parce que les ambulances aux États-Unis ça coûte un fric monstrueux. Les Américains qui prennent des Uber pour aller en urgence absolue à l'hôpital. Et Uber a dû prendre des guidelines pour dire on ne prend pas les gens qui saignent en Uber. Arrêtez de commander un Uber pour aller à l'hosto. On n'est pas des ambulances de secours. Et oui, mais en même temps ça coûte un fric monstrueux une ambulance aux États-Unis, donc les gens n'ont pas les moyens. Du coup, les gens meurent. Ben oui, non, mais c'est donc. Je me souviens que c'était un cas qui s'était posé. Mais c'est un sujet qui est intéressant. Faut-il faire payer aux skieurs hors piste les frais d'élitreuillage pour aller les sauver ? Et en fait, il y a des pompiers qui ont répondu. C'est une mauvaise idée. C'est une fausse bonne idée, en fait. Sur le moment, ça fait plaisir de se dire que ils ont qu'à payer. Parce qu'ils ont fauté, parce que machin. Les pompiers, ils te répondent, mais c'est une connerie. Si on fait ça, les gens, ils vont pas appeler les secours. Les gens vont crever, en fait. On aura des morts. Au lieu d'avoir des blessés, on aura des morts. C'est quand même dommage. Notre métier, c'est de sauver des vies, donc... Voilà. Les faire participer, peut-être. Alors après, on peut peut-être trouver un compromis, peut-être les faire participer, j'en sais rien. C'est à discuter. Mais... Si l'effet de ta décision, c'est d'augmenter le risque, notamment le risque de décès, c'est un peu dommage. Qui dit en fait le service public il est là, enfin a priori on est là pour sauver la vie des gens, on sait pas. C'est dommage, mais tu te mets en danger et tu mets en danger d'autres via des avalanches. Oui, je sais. Non, non, mais il ne s'agit pas, d'avaliser le comportement en disant que c'est bien. Non, il faut le prévenir. Il faut dire non, vous n'avez pas le droit. Il faut le répéter. Il faut faire de la communication. Il faut baliser les pistes pour expliquer aux gens non, vous n'avez pas le droit, etc. Il faut le redire encore et encore et encore et encore. Mais lorsque le risque advient, c'est plus le moment de faire de la philo. En fait, il faut sauver une vie. C'est ça qui compte. C'est le plus important. Mais là, je vous parle de l'élitreuillage d'un skieur hors piste. On peut parler d'un fumeur. Voilà. Faut-il laisser mourir d'un cancer du poumon un fumeur? Je pense que Javier Milei répondrait oui. Là, franchement, dans la vision du monde d'un crypto-bro, ouais. Si vraiment t'es individualiste et capitaliste au point le plus absolu, chacun est responsable de lui-même, tu te démerdes. T'es responsable. Tu crèves, pas mon problème. Si t'es pauvre, c'est dommage pour toi. Fallait être riche. Faut-il soigner le diabète? Ah bah ouais, bah fallait pas manger trop gras, trop sacré et trop sulé. Ah bah ouais, ah bah t'as du diabète. Ah bah tu vas crever. Bien fait pour toi. Non mais vous voyez, il y a un moment, je veux bien. Hein. Sélection naturelle. Oh, quel enfer. Les darwinistes sociaux, là. Merci, Drante. Couvre-t-on les frais de santé des antivax? Mais oui, je me souviens, il y avait le débat aussi à l'époque du Covid. Pareil, des mecs qui disaient, ouais, les gens qui sont pas vaccinés, il faut pas les réanimer. Et des gens qui disaient ça, mais vous êtes horrible. Évidemment qu'il faut sauver la vie des gens. Enfin, on s'en branle de... On sauve la vie des gens. La règle numéro un, principe de la Croix-Rouge. On prend pas de... On ne fait pas le tri entre les malades, selon leur comportement, selon leurs valeurs, selon leur politique, leur religion, leur machin. On sauve la vie des gens. Cette haine qu'il y a contre les antivax. Non, puis alors par ailleurs, après ça aussi c'est une question philo, on peut en discuter, mais les antivax ne sont-ils pas des victimes avant tout? Victimes de dérives sectaires en ligne, victimes de complotisme, victimes de... Enfin, je veux dire, moi j'ai plus de pitié que de colère contre un antivax. Je me dis, merde, putain, encore un qui est tombé, chier. Je lui en veux pas. Il ou elle est tombé dans un truc de merde qui circule en ce moment où les gens se vaccinent pas parce que je sais pas quoi, on leur a raconté des conneries sur internet et tout. Bon bah voilà, c'est terrible. En fait, c'est terrible, c'est un échec collectif, c'est triste. Donc bon. Voilà, je sais pas, encore une fois, principe un peu élémentaire, on pose pas de questions, on sauve la vie des gens, on discute après. Et il faut faire en sorte que les gens appellent les secours, il faut faire en sorte que les gens appellent à l'aide, etc. Et si on crée les conditions pour que les gens aient peur d'appeler à l'aide, bah en fait, on maximise le risque d'avoir des morts. Et c'est pas ouf. Enfin, d'un point de vue de sécurité civile, d'un point de vue de pompiers, de soignants et tout, c'est pas ouf. Je suis un immense naïf, hein. Ouais, je suis un immense naïf. Normalement, il y a des gens dans le chat à ce moment-là, quand je dis ce genre de truc, qui disent « Tu es bien naïf, Jean Massier. Tu es bien naïf, le monde est moche, dehors. » Et les gens, l'homme est un loup pour l'homme, hein, je vous rappelle, hein, l'homme est un loup pour l'homme, hein, il faut se défendre. Hein. Chacun est responsable pour lui-même, d'accord. Le monde est pas moche, dehors il y a de la neige. C'est vrai, c'est joli, il y a de la neige. C'est un peu la base de la sécu, de sauver tout le monde, peu importe les circonstances. Bah, c'était la philosophie de la Croix-Rouge au 19e siècle, au moment des guerres napoléoniennes, où il y a des médecins, enfin des gens qui se sont dit « mais il faut qu'on aille sur les champs de bataille pour sauver la vie des gens, quel que soit leur drapeau. »
Bonjour à toutes et tous.
Chut, ta gueule. Merci. Il faut aller sauver la vie des soldats tombés au machin, quel que soit leur drapeau, on s'en fout. Ce qui compte, c'est l'humain. Ce qui compte, c'est la personne humaine. Ce qui compte, c'est la valeur de la personne, machin, etc. Moralement, on doit sauver tout le monde. Et c'est ça, le principe de la Croix-Rouge. Cette espèce d'égalité parfaite. On porte secours à toute personne dans le besoin, quelle que soit cette personne. Doit-on sauver tout le monde, même les connards qui ruinent le monde pour tous les autres ? Eh bien, c'est le paradoxe. C'est le paradoxe. Si vous aviez une machine à remonter dans le temps qui vous permettait d'empêcher Adolf Hitler de suicider, est-ce que vous le feriez ? Et la réponse est oui. La réponse est oui. Non pas parce que vous l'aimez bien, c'est pas du tout le sujet, d'ailleurs on s'en branle. La raison, c'est que les victimes ont le droit à un procès. Les victimes ont le droit à un procès. Voilà. Adolf Hitler n'a jamais répondu à la justice, Adolf Hitler ne s'est jamais expliqué, Adolf Hitler n'a jamais été condamné à quoi que ce soit, aucune loi ne lui a été appliquée, il s'est ôté la vie, ce connard. Il a été lâche jusqu'au bout. Donc si on a la possibilité de l'empêcher de mourir, il faut absolument l'empêcher de mourir. T'as pas rendez-vous avec la mort, t'as rendez-vous avec la justice. Connard. Les victimes ont le droit à ça. Et toute l'Europe a le droit à ça. Un procès d'Adolf Hitler. Bon, on l'aura jamais. Bah, c'est comme ça. On a eu le procès de Nuremberg, on a eu d'autres machins, enfin d'autres responsables qui ont été traduits, mais bon. Et ce que je viens de dire est valable pour tous les méchants, en fait, pour tous les gens qu'on n'aime pas. Et le procès de Maduro, alors ? Mais tu sais, on en parlait lundi, mais... si d'aventure Maduro devait faire l'objet d'un procès, c'est au Venezuela que ça devrait avoir lieu, pas à New York. C'est pas aux Américains juger Maduro. Si d'aventure Maduro avait commis des délits, des crimes, etc., c'est à discuter. Mais en fait, c'est aux Vénézuéliens d'avoir leur justice, leurs droits qui s'appliquent, leur procès, etc. Enfin bref. Ou alors une justice internationale, si d'aventure, ça se discute juridiquement. Pourquoi pas avoir la Cour pénale internationale et tout, faut voir. Mais ne crains-tu pas qu'un tel procès d'Adolf Hitler puisse lui donner une tribune, voire en faire un martyr, alors que là, il démontre qu'il n'est qu'un lâche ? Mais non, mais en fait, un procès, c'est pas une tribune pour le prévenu. Ou alors, c'est une tribune pour les victimes aussi. Enfin, je veux dire, le procès de Nuremberg, des victimes se sont exprimées. Il y a eu un moment où des rescapés de la Shoah ont pu parler, dans le cadre d'un procès, pour dire ce qu'ils ont vécu, dire ce qu'ils ont vu, témoigner, expliquer, raconter les horreurs, les machins, etc. Un procès, c'est un service rendu à toute la société, On a tous collectivement le droit à une justice, à un procès. C'est un service rendu aux victimes qui doivent avoir un moment où on les entend, on les écoute, c'est pris en compte, etc. C'est aussi un moment où le prévenu a la possibilité de s'exprimer, de s'expliquer, de se défendre conformément aux lois, et c'est très important. C'est tout ça un procès. Tu peux pas en prendre une seule partie et dire « ouais, mais du coup, bah non, en fait, enfin... » Un procès, c'est pas uniquement pour condamner, ça a une vertu de soin sociétal ultra importante. Mais bien sûr, c'est super important un procès. Enfin, mais ne serait-ce que pour les victimes. Moi, je trouve ça terrible des familles de victimes qui n'auront jamais de procès. Qui vont pleurer leur mort toute leur vie et il y aura jamais de... À aucun moment, il y aura eu la possibilité pour elles de s'exprimer devant une cour, devant un jury, devant machin, pour leur dire... Voilà ma souffrance, voilà ce que j'ai perdu, voilà l'horreur de témoigner. Être entendu, ça fait partie du processus de deuil. Et voilà, je trouve ça terrible de se dire que non, bah non, pour des raisons, ça peut arriver, bah, il n'y aura pas de procès. Notamment parce que le prévenu est mort. Bah, il n'y aura pas de procès. Et là, je me retrouve comme un con avec mon deuil. Ce processus de deuil doit-il toujours passer par un procès ? Bah, il peut passer par un procès. Moi, je ne suis pas là pour dire aux victimes ce qu'elles doivent faire ou ressentir ou quoi que ce soit. Mais je sais que beaucoup de victimes témoignent du fait qu'un procès leur a été utile. Ont eu la possibilité de s'exprimer, c'est important pour une victime. Un procès a toujours un effet cathartique, y compris pour les gens non directement impliqués. Ouais, c'est vrai. Et puis le prévenu a la possibilité qui lui est offerte de s'expliquer. Il n'est pas obligé de le faire, il peut garder le silence. Il a le droit. Mais il peut aussi parler. Et parler, ça peut vouloir dire présenter des excuses, émettre des regrets, reconnaître des torts. Ça peut être ça, c'est pas toujours ça. Mais bon... Après, lui aussi, il aura sa vie. A priori, il se sera en prison et pour longtemps, mais... Voilà. Merci, Magda. Merci beaucoup. Il n'est pas possible de faire un procès d'un mort comme un procès contumace vitale. Non. Non, on ne juge pas les morts. On ne juge pas les morts, c'est pas un procès. Le jugement d'un mort n'est pas un procès. Par contre, on peut. Merci Midolas. Par contre, on peut faire un procès des complices. Ça, c'est. Enfin, voilà, c'est le procès de Nuremberg. Bon, Adolf Hitler n'était pas présent puisqu'il était mort, mais beaucoup de responsables de l'Allemagne nazie et de la Shoah en particulier étaient jugés. Bon, bah, faute de mieux, c'est tout ce qu'on aura. Ben, on va faire avec. C'est comme Charlie Hebdo, justement, on a condamné les complices uniquement. Bah oui, du coup, oui. Oui, pour le procès Charlie, oui, c'est vrai, t'as raison. Ça s'est déjà fait, CF, le concile cadavérique. Oui, le concile cadavérique, c'est une histoire vraie. Le concile cadavérique, alors c'est vieux, c'est au Moyen-Âge, mais en gros, il y a un pape. Il y a un pape qui a fait déterrer le corps de son prédécesseur, qu'ils l'ont habillé avec ses habits de pape de l'époque. Ils l'ont assis dans un fauteuil et ils ont fait son procès. Ça devait fouetter dans la salle, mais ils ont fait, ça a duré un mois, etc. Enfin, ils ont fait un vrai procès pour lui défoncer la gueule, lui expliquer que c'était un mauvais pas pour un milliard de raisons, machin, tout ça. Ils ont fait un procès d'un cadavre. bon. Voilà, ça s'appelle le concile cadavérique. Ça a existé. C'est glauque. Ouais, c'est glauque. Ouais, je crois qu'on peut dire que c'est glauque. La société a eu ses réponses. En tout cas, le prévenu a fait usage de son droit au silence. Il a refusé de répondre aux questions. Il a été condamné à mort ? Je sais plus, je crois, je sais pas. Je sais pas s'il a été condamné à mort. Son avocat a dit c'est mort. Son avocat a essayé de s'entretenir avec son client en amont du procès pour préparer la défense. Il a pas été beaucoup aidé par son client, l'avocat. Il a dû préparer tout seul la défense. Mais, comme tout bon avocat, il a dit à son client « Gardez le silence. C'est mieux pour vous. Gardez le silence, je m'occupe de... Je fais le blabla, vous inquiétez pas. » Il a réussi à lui tirer les vers du nez. Pas mal. Le prévenu était un peu rigide. Oh, vous êtes con. Oh, vous êtes con. L'audience était mortifiée. Il est resté de marbre. Vous êtes très inspiré. Il était muet comme une tombe. Vous êtes très, très inspiré. Ça fait plaisir. Heureusement que vous êtes là. Moi, quand je vous vois, je me rassure parce que je me dis que bon, ce sera peut-être la fin du monde bientôt, mais au moins on va bien rigoler pendant la fin du monde. On aura toujours des petites blagounettes. Ouais. Ce sera court mais drôle. On va partir en rigolant. D'ailleurs. Merci Doidou pour les 5 subs offerts au chat, c'est très généreux de ta part, merci à toi, merci beaucoup. D'ailleurs, on se donne rendez-vous au paradis, hein, je vous rappelle. Je vous rappelle qu'on a rendez-vous au paradis, hein. On se retrouve à la buvette, moi je serai à côté de la tireuse à bière, et voilà, rendez-vous là-bas, et on reprend la discussion. Parfait, on dit ça. Ouais, on fait ça. Et on monte une association politique pour discuter et commenter en direct les décisions de Dieu sur l'administration du paradis, comment ça se passe, tout ça, etc. On fait des grèves, on met de l'ambiance, quoi. On organise un peu le truc, on demande audience à Dieu, on a des questions à lui poser. Moi, j'ai des questions à lui poser, d'accord ? Moi, je suis intervieweur de politique, donc Dieu... Tu viens ici, tu t'assois, j'ai des questions. Comme disait Pierre Desproges, si Dieu existe, j'espère qu'il a une bonne excuse. C'est exactement ça. Hop, 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 tu vas pas y couper. Dieu, on en a gros. Ouais. Non, ça va être bien, je vous dis. Voilà, donc rendez-vous à la buvette. Est-ce que vous soutenez le Hamas ? Est-ce que vous condamnez les violences ? Dieu, dis donc Dieu, droite ou gauche ? Hein ? Ah bah, faut se positionner, mon grand. Hein. Ah bah, tiens, ouais. Hey. Et là, Dieu, il répond « gauche ». Et nous, on lui fait « attends, tu vas pas t'en sortir comme ça, on s'assoit, on va discuter. Quelle gauche ?» Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, non, pas juste gauche. Non, 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 non. De quoi on parle ? Trotskiste lambertiste. Est-ce qu'il est woke? Ouais, est-ce qu'il est woke, Dieu? Dieu, t'es woke ou pas? C'est comment? NPA, mais lequel? Quel NPA? Quel NPA? Ça veut rien dire NPA. Quel NPA? Anonyme 31. Merci, Anonyme 31. Pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit ça de manière très sérieuse. Non, puis, hey, il y a Satan qui passe là-bas. Hey, Satan, toi aussi. Non, non, tu vas pas y couper non plus. Satan, tu viens, on a des questions. On a des questions, Satan. Déjà, pourquoi? Pourquoi? Il y a des traumas d'enfance, il y a des... tu veux qu'on en parle? Pourquoi Bolloré? Pourquoi tu nous as envoyé Bolloré? C'est-à-dire, on n'a rien demandé, nous, on était bien, on était là et tout, tout là, mais... Précisément, vous étiez bien, ouais, c'est ça. Ça doit être pour ça. Putain, on va rigoler, hein. Non, mais on va pas attendre d'arriver au paradis pour rigoler. Vous avez bien compris qu'on avait... sur cette chaîne, en tout cas, on a la ferme intention de commencer dès maintenant. Non, mais voilà. Ce serait qui le haut commissaire au plan du projet Terre 2.0 une fois qu'on aura pété celle-ci à coup de bombe atomique? Moi, je veux faire partie de la commission citoyenne du paradis sur la prévision d'une nouvelle Terre. J'ai mon mot, je voudrais avoir mon mot à dire sur comment on va organiser un peu les choses. J'ai des idées, j'ai plein d'idées. Constituante. Ah ouais, constituante. Go constituante. On fait une constituante au paradis avec des angelots et tout machin pour dire ouais. Non, on a des choses à dire. Tu as des idées, mais as-tu la majorité? Ah, vraiment, il m'a fait marrer Roland Lescure aujourd'hui. Roland Lescure, il m'a fait marrer sur le truc. Non, mais vous avez des idées, mais il faut qu'elles soient majoritaires. Il a dit ça à des communistes. Non, mais. Communiste, vous avez des idées, mais ça fait un siècle et demi que vous avez des idées, c'est pas le problème. Vous n'êtes pas majoritaire. C'est bien ça le problème. On n'en veut pas de vos idées. La gueule des débats pour le budget. Le budget du paradis. Est-ce qu'on pourra faire des amendements pour le budget du paradis? Moi, je suis rapporteur du volet buvette du budget du paradis. À quoi ressemble le paradis des bolcheviks? Oh, j'ai une blague. J'ai une blague soviétique. J'ai une blague soviétique. Attends, ça fait longtemps, faut que je m'en souvienne. Ouais, c'est l'histoire d'un mec qui meurt et qui arrive au ciel. Il arrive au ciel Et Saint-Pierre regarde dans son grand livre le dossier du monsieur et il lui dit « Monsieur, j'ai regardé votre dossier, j'ai regardé vos états de service et je suis navré, vous n'irez pas au paradis. Je suis désolé, vous ne pouvez pas être éligible au paradis, vous irez en enfer. Mais, compte tenu de certaines circonstances atténuantes dans votre parcours, vous allez avoir la possibilité de choisir votre paradis. Votre enfer, pardon. Vous allez avoir la possibilité de choisir l'enfer dans lequel vous allez aller. » Alors le mec est un peu surpris, un peu déçu, mais surtout un peu surpris. En disant, bon, d'accord, mais quels sont mes choix ? Et Saint-Pierre lui dit, écoutez, vous avez le choix entre l'enfer capitaliste et l'enfer communiste. Hein ? Alors le mec est vraiment décontenancé. Il dit, ça veut dire quoi ? C'est quoi l'enfer capitaliste, par exemple ? Et Saint-Pierre lui dit, oh, bah, l'enfer capitaliste, il y a d'immenses chaudrons, on vous met dans les chaudrons, on met du bois en dessous, on fait cramer tout ça et vous souffrez pendant une éternité. Ok, d'accord, très bien. Et du coup, c'est quoi l'enfer communiste ? Et Saint-Pierre lui dit, oh, bah, l'enfer communiste, il y a d'immenses chaudrons, on vous met dans les chaudrons, on met du bois en dessous, on fait cramer tout ça et vous souffrez pendant une éternité, quoi. Et là, le gars, il dit, pardon, mais excusez-moi, mais j'ai pas très bien compris la différence entre les deux. Et là, Saint-Pierre, il se penche vers lui et discrètement, il lui fait, hey, moi, je vous conseille quand même l'enfer communiste parce que les chaudrons sont défectueux, le bois, il n'y en a jamais et les mecs sont tout le temps en grève. La blagounette. Voilà. C'était une blague qui se racontait à l'époque en URSS, qui faisait apparemment beaucoup rire les gens. Voilà, vous pourrez la raconter à votre tour. Elle est mignonne. Ouais, elle est mignonne. Elle est mignonne. Ça va. Mais que tu pouvais raconter qu'une fois. Je l'ai déjà raconté, cette blague ? Attendez, je radote. Non, parce que hier, on a établi scientifiquement que je radotais sur cette chaîne. Il paraît que je radote. C'est vrai, ce mensonge ? Quand est-ce que je l'ai raconté, cette blague ? Non, mais attendez, si c'était il y a genre 4 ans, un truc comme ça... Non, mais Elisa, t'es abonnée depuis combien de milliards d'années, toi aussi ? Attends. 15 mois, ouais. Radot Chili Peppers. Il y a quelques mois. Non, je l'ai pas raconté il y a quelques mois. C'est pas vrai. J'ai dû la raconter il y a 2 ans, 3 ans. Je m'en souviens, donc ça devait pas être si vieux. Putain, c'est vrai ! Mais... Oh non, le streamer qui radote. Oh non, c'est terrible. Oh non. Si, c'était il y a peu. Ça devait être quelques années. C'est bon, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Donc moi, je vais établir que c'était il y a 3 ans. Merci Tétard. Je vais établir que c'était il y a 3 ans et que Tétard, il n'était pas là il y a 3 ans. Donc il n'avait pas entendu la blague. Donc j'ai le droit de radoter si c'est pour faire kiffer les nouveaux. Radoter, vu que tu parles plusieurs fois par semaine pendant de longues heures, ça paraît normal. Merci. Merci de reconnaître quand même les circonstances particulières de mon métier qui consiste à parler de politique dans un micro plusieurs heures par jour pendant plusieurs jours par semaine depuis 10 ans. C'est possible que je radote un peu. Est-ce que quelqu'un veut que je lui explique ce que c'est que le 49-3 ? Parce que quitte à radoter, je peux vous réexpliquer pour la 2 milliardième fois. Ce que c'est que le 49-3. Ça me fait plaisir, c'est mon métier. Je suis là pour ça. Je suis là pour deliver du kiff. L'article 16. Oh, oui. Oh, l'article 16. Article 16. Le NFP, c'est mort du coup. Et le NFP, alors, il en est où ? Hmm. perso, j'ai envie de ma 5e visite Google Street View des lieux politiques de Paris. Ah non, 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 attends, ça, t'as pas le droit. Ça, la dernière fois que j'ai fait un Google Street View des lieux emblématiques de la politique parisienne, c'était il y a plusieurs années. D'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup de députés dans la salle tout à l'heure. Non mais c'est génial parce que moi je me suis lancé il y a 10 ans en me disant vas-y je vais expliquer aux gens comment ça marche l'Assemblée nationale, la politique, tout ça, je vais essayer de répondre à leurs questions machin, et 10 ans plus tard je me retrouve avec une communauté désabusée, tu sais, des gens qui sont comme ça qui font non mais on sait ça Jean, mais on le sait putain, tu l'as déjà dit. J'ai trop bien réussi mon truc. J'ai trop bien réussi mon truc. C'est que maintenant vous êtes formés, maintenant vous connaissez, vous savez, vous avez percuté les trucs, les machins, les subtilités du bordel. Moi, j'ai plus rien à vous apprendre. C'est émouvant un peu. C'est émouvant. Je peux vous laisser voler de vos propres ailes. C'est pas grave, il y a des nouveaux. Non, mais voilà, moi je suis là pour les nouveaux. Moi je suis là pour les nouveaux. Moi, je suis là pour aider les nouveaux. Par ta faute, Jean, j'ai toujours la Constitution sur moi. Sur toi ? Non, non, la Constitution, je vous ai dit, la Constitution, il ne faut pas l'avoir sur soi. La Constitution, il faut l'avoir dans les toilettes. Ils n'oseront pas vous le dire, mais moi, je peux vous le dire, les éditions Dalloz, ils ont pensé ce format de Constitution pour que ça puisse être posé nonchalamment dans les chiottes. C'est là qu'il faut feuilleter, tranquille, comme ça, t'entends, petit article et tout, tu regardes, tu passes à autre chose. Voilà, c'est ça, c'est à ça que ça sert. Ah non, la gardez pas sur vous. Est-ce que t'as une sponso Lenovo ? Le gars qui a rien capté. Non, par contre, j'ai une nouvelle sponsor qui va arriver. Je vous en parlerai demain. Est-ce que j'aurai le temps demain ? Normalement, demain, ouais. Ouais, j'ai un nouveau sponsor pour ma chaîne. Et vous allez pouvoir bénéficier de trucs. Voilà, je tease. Je vous annonce ça demain. Hop. Jean Sponso Airbus, let's go. Je l'ai déjà fait la Sponso Airbus. C'est Pierre-Edouard Sterrin qui sponsorise ma chaîne. Et donc, je vous annonce que tous les vendredis, on va avoir un stream de lecture des évangiles. Parce que le pire, c'est que je suis en train de me dire que ça pourrait être super marrant. Nous connaissant, on est capable d'en faire un truc drôle, de juste lire les fucking évangiles et de les commenter parce qu'on comprend rien à ce qui est écrit. Donc non. Non, ça n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu, je suis désolé. Je sais que vous le vouliez. Je sais que vous en rêviez. Il n'y aura pas de sponsor Pierre-Edouard Sterrin. On prend les passages bien gauchos et on compare avec ce que font les cathos. L'Ancien Testament, il y a des belles dingueries. Putain, l'Ancien Testament, je suis sûr que c'est censuré sur YouTube. Je suis sûr qu'on n'a pas le droit. Il y a des passages de l'Ancien Testament, à mon avis, t'as pas le droit sur YouTube. Faut bipper des mots. C'est la parole de Dieu, mais la parole de Dieu, elle passe pas le robot YouTube. Merci Kenouf. Bonjour, j'ai déjà entendu chez mes potes des phrases comme « De toute façon, ils sont tous corrompus, tu vas voir quand ils seront plus au pouvoir. Ou encore, dans 2 mois, Macron sort l'article 16. Comment réagir ? Merci Lucien. Il faut inspirer par le nez et expirer par la bouche. Merci le Guigui. Faut pas paniquer. Faut rester maître de soi. Avoir les pieds bien à plat sur le sol. Avoir conscience de son corps et de sa position. Et faut leur poser des questions. En fait, le mieux que tu puisses faire dans ce genre de situation, c'est de poser des questions naïves. Pas des questions qui piègent, pas des questions qui jugent. Non, non, des questions où, sincèrement, tu dis « Ah bon ? Ben raconte, explique-moi. En quoi ? Et comment ça ? T'as des exemples ?» Et souvent, les argumentaires se dégonflent parce qu'il n'y a pas d'argumentaire. Ce sont des impressions, ce sont des réactions, c'est très émotionnel et tout. Donc, en fait, ça repose sur des sentiments, mais pas sur des faits. Donc, en fait, ça, voilà. Donc, juste poser des questions. Je suis pas con, je le vois bien à la télé. Oui, je me souviens, j'ai la ref. L'entretien épistémique, ça marche toujours dans une conversation compliquée. Oui, c'est vrai. Alors là, moi, je suis pas du tout un spécialiste de ça, mais il y a des vidéos YouTube, si vous voulez, qui peuvent vous apprendre les techniques pour faire ce qu'on appelle un entretien épistémique, ce qui est une version un peu plus poussée de ce que je vous ai dit, c'est-à-dire poser des questions. Mais un entretien épistémique, c'est un certain type de questions d'une certaine manière, de manière à faire accoucher la réflexion, les limites de la théorie, etc., etc. Ça s'appelle un entretien épistémique. Voilà, si vous ne connaissez pas, ça porte ce nom-là, entretien épistémique. Cherchez ça sur Google, sur YouTube, et tout, vous trouverez des gens qui parlent de ça. Ils sont bien plus calés que moi, d'ailleurs, là-dedans. Et voilà. Mais moi j'ai... À Noël, il y a quelqu'un de ma famille qui m'a dit qu'une de ses amies lui avait dit qu'à Nantes, le maire avait interdit de prononcer le mot Noël dans la rue. Et alors vraiment, moi je suis resté complètement... je l'ai regardé, elle a vu que je réagissais pas et du coup elle m'a demandé « Ah, c'est pas vrai ?» J'ai dit « Non, c'est pas vrai. » Ah non, mais je me disais bien aussi, elle est bizarre, cette copine. C'est... Bon. Donc voilà, donc c'est la légende urbaine que j'entends. C'est vraiment le truc, à Nantes, il est interdit de dire Noël dans la rue. Comment ça, dans la rue ? Ça veut dire quoi ? Parce que, en plus, moi, me connaissant, évidemment, je suis juriste, publiciste, donc j'ai commencé à me poser la question, attends, la validité de l'arrêté municipal, est-ce que ça passe au tribunal administratif ou est-ce que ça remonte directement via la préfecture avec un contrôle de légalité ? C'était ma première question dans ma tête, c'est allé très vite. Hein. Deuxième question, comment ils font les agents municipaux pour contrôler ce qu'on dit dans la rue ? Parce qu'ils ont quand même autre chose à foutre, les policiers municipaux. Je veux dire, globalement, c'est pas un métier facile, policier municipal. Tu dois avoir les yeux sur tout en permanence, les incivilités, les infractions routières, les machins. Enfin, t'as pas envie d'écouter ce que disent les gens, s'en branle, de personnes qui marchent en discutant. Tu vas pas te rapprocher pour tendre l'oreille. Normalement, t'as pas le temps pour ces conneries. Ah. Non, c'est compliqué, puis ouais, je sais pas. Moi, j'ai eu droit à « Ils ont passé la loi pour interdire d'ébouillanter les crustacés. » Oh, les écolos, hein. Oh, les écolos. Vous avez entendu quoi, vous, dans le chat ? Dites-moi un petit peu, c'était quoi les dingueries que vous avez entendues dans ce genre-là, à Noël ? Mon beau-frère qui a sorti que 4 associations musulmanes avaient porté plainte à Nantes contre des décos de Noël et qu'ils avaient gagné au tribunal et que c'est pour ça qu'il n'y avait que des joyeuses fêtes. Oh non. Dans une commune pas loin de chez moi, il y a eu un arrêté interdisant le porte-à-porte. Ça n'a jamais été appliqué. Ah, le démarchage commercial. Ça, c'est interdit dans beaucoup de villes, non ? Regarde sur mon coloriage, ils ont mis 2026, ils ont même plus le droit d'écrire Noël. Oh, c'est une dinguerie. Mon beau-frère qui affirme que les véganes veulent faire interdire la viande les soirs de réveillon avec des peines de prison. Du coup, tu te retrouves, putain, elle voit te charger les prisons. Hein. Et on est tous là comme des cons en train de manger des dalles de lentilles en prison. Parce qu'évidemment, les repas seront végé. Oh, c'est chaud. Ouais. Bof, pareil, comme quoi les députés de gauche refusaient d'utiliser Joyeux Noël car ils veulent effacer Noël. Les trucs classiques, les juges qui sont tous de gauche, par exemple. Oui, oui, classique. Moi, j'ai eu qu'il faudrait supprimer l'Assemblée nationale car ça coûte trop cher. Mon père, il a dit que Sarko était innocent et emprisonné sans procès. Sarko emprisonné sans procès. En Bastillé. En Belgique, ma mère, à Bruxelles, on interdit aux gens d'avoir des crèches. Ah oui, l'interdiction des crèches, ça c'est un classique aussi. Hein. J'ai entendu qu'il était interdit de dire lait végétal maintenant, ça m'a fait rire. Oh là là. Mon père a dit que Macron était socialiste. Ouais, mais classique, c'est pas le seul. Concernant la prison, justement, j'ai eu. La prison, c'est l'hôtel 5 étoiles, tout y est gratuit, t'as la télé et des chefs qui cuisinent. Oh merde. Oh non. Ça y est, je suis en train d'imaginer des chefs étoilés et tout, en train de faire du dressage comme ça sur des assiettes préparées pour chacune des cellules. Oh non. Les chefs qui cuisinent. Moi, on m'a dit qu'il fallait soutenir Baxit et Jean Massier, mais ça, je crois que c'est pas une dinguerie. Non, c'est une lapalissade. C'est un classique. Perso, ça me terrifie de voir à quel point les informations n'ont plus aucune utilité à être vraies. Il faut juste les dire de manière convaincue et convaincante et ça fait le taf. Ouais. Après, c'est pas nouveau, mais disons que ça s'accélère. On m'a dit qu'en Algérie, il interdisait la vente de bûches de Noël. Oui, je l'ai entendu, ça aussi. Oui. Oui, à Alger, on n'a pas le droit de vendre des bûches de Noël. Oui, ça, je l'ai entendu. On m'a dit que Glucksmann est de gauche. Moi aussi, j'ai entendu un truc du genre « Ouais, mais y a qui pour sauver la gauche ?» Parce que Glucksmann, bon, c'est pas ouf. C'est un bon début d'analyse. C'est bon, on peut en discuter, mais on peut commencer par ça comme base. Il y a le classique « Macron est un président de gauche qui met en place un projet socialiste ». Oui, ça, je l'ai entendu aussi. Oui, classique. « Mes darons ont essayé de m'expliquer que la France a besoin d'un Trump français pour sauver le pays. Mais on n'est pas sorti des ronces. J'ai un collègue de droite très lettré qui m'a expliqué que Xavier Bertrand, c'était l'avenir du pays. J'ai pas compris. Mais attends, tu sais que moi j'adore les gens convaincus. Hein. Un jour comme ça, j'ai discuté avec une personne que je connaissais peu, qui m'a tenu la jambe pendant 45 minutes pour m'expliquer que Bruno Le Maire, c'était l'avenir. Bruno Le Maire, c'était le Barack Obama français. Il avait tout compris. Alors c'était avant que Bruno Le Maire devienne ministre. C'était à l'époque où il venait de quitter les Républicains, je crois, je sais plus. Mais en gros, c'était l'avenir du futur de demain, Bruno Le Maire. Et en vrai, moi, j'ai rien à dire. Je crois pas un quart de seconde soit le cas, mais la personne était convaincue. Et c'est ça qui compte. C'est que vraiment, elle était en mode, non, mais je sais ce que je dis et tout. Bah, trop bien. Enfin, go for it, hein. J'ai aussi eu. Non, mais depuis le vaccin Covid, il y a plein de cancers partout de la part d'une fumeuse. Oh putain. Oh les antivax. Oh. Ça me manque pas, hein, cette période. C'était chiant quand même. Hein. Vous vous souvenez de Florian Philippot? En vrai, ça m'a fait marrer deux semaines. Puis au bout d'un. En fait, il y a un moment, c'était vraiment pénible. C'est plus drôle. Ouais. Philippot, il a une bonne fanbase TikTok. Philippot, il a une bonne fanbase. Ça, non, mais ça c'est vrai. Numériquement, sur Facebook, sur Insta, sur TikTok, etc. Philippot, il se défend bien en nombre. Après, est-ce que ça représente quoi que ce soit politiquement? J'en sais rien. Enfin, tu vois, c'est pareil. François Asselineau aussi, il a une fanbase. Je ne suis pas le seul à avoir entendu parler de Borloo ces derniers temps, rassurez-moi. Alors, si par ces derniers temps, tu entends au cours des 15 dernières années, non, je te rassure, tu n'es pas le seul. France, Jean-Louis Borloo, non mais Jean-Louis Borloo, à chaque fois qu'il y a un remaniement ou un changement de Premier ministre ou une élection ou je ne sais pas quoi, tu as toujours des gens qui disent « Et pourquoi pas Borloo ?» Il y a une espèce d'aura comme ça de Jean-Louis Borloo le centriste, Jean-Louis Borloo le planificateur, Jean-Louis Borloo le mec apprécié de beaucoup de monde, ce qui est vrai. Jean-Louis Borloo est un homme apprécié de beaucoup de camps politiques, etc. On peut facilement discuter avec lui et tout. Il n'est pas clivant, il est machin. Mais à chaque fois, Jean-Louis Borloo, et pourquoi pas Jean-Louis Borloo Premier ministre, à chaque fois qu'il y a un changement de Premier ministre, j'entends l'hypothèse Jean-Louis Borloo. Voilà. Est-ce que c'est pas une forme de réussite pour Jean-Louis Borloo? Quelque part, non mais c'est bien, enfin je veux dire que quand tu réussis à avoir cette image-là qui passe un peu partout, que tout le monde pense à toi et tout, bon, pas mal. Mendès France, c'était un peu ça à l'époque. Mendès France, c'était un peu ça à l'époque. Mendès France, il avait aussi des fans. Hein. Mendès France, il avait des soutiens. Dès que Pierre Mendès France était un visionnaire, quelqu'un qui avait tout compris à la modernisation de l'économie, etc. Donc oui, t'as raison. Oui, c'est vrai. Est-ce que t'as eu des fans de CNews pendant les dîners de famille? Non. Non, il n'y a pas de fans de CNews. Hmm. C'est pareil pour Valls. À chaque remaniement, il y a des gens qui disent « Imaginez Manuel Valls ». Manuel Valls pour Matignon, non, ça n'a jamais été sérieux. Ça a toujours été une blague. C'est la fameuse blague qu'on fait à chaque fois sur Twitter. Et pourquoi pas Manuel Valls pour Matignon, etc. Mais c'est jamais envisagé sérieusement premier degré par des gens influents, par des politiques, par des journalistes, par des politologues, etc. Non, Manuel Valls, non. Borloo, oui. Je sais pas pourquoi. La gauche pour Matignon, c'est plus Cazeneuve qui sort du chapeau. Alors pour le coup, Cazeneuve, je l'ai entendu, oui, comme une hypothèse post-Bayrou, post-Barnier aussi d'ailleurs à l'époque, je me souviens, de gens qui disaient. Et en vrai, l'analyse n'était pas bête. L'analyse n'était pas bête. Elle consistait à dire, si le but pour Macron, c'est d'arrimer le Parti Socialiste et de trouver un accord durable, ne serait-ce que sur un budget, ça peut être intelligent d'aller chercher un Premier ministre qui aurait un profil de type Cazeneuve, qui a le mérite de ne pas être Parti Socialiste, de ne pas être chez les macronistes non plus, mais d'être à cheval entre les deux et d'avoir une capacité à parler aux deux. Et ça, je l'ai entendu. Ouais, l'hypothèse Cazeneuve, ouais. Et une des raisons pour lesquelles Cazeneuve n'a pas été nommé Premier ministre, c'est que, je pense qu'Emmanuel Macron a eu raison, c'est qu'en fait le problème c'est que si tu nommes Cazeneuve, tu signes la fin de ton quinquennat du sceau du hollandisme. Parce que Cazeneuve c'est le hollandisme, Cazeneuve c'est le dernier Premier ministre de Hollande, il fait partie des derniers des Mohicans du hollandisme, de cette gauche-là, de ce centre-gauche social-démocrate, etc. Donc, mais en fait, c'est trop marqué Hollande. Et pour le coup, ça eût été un aveu d'échec de la part de Macron que de s'en remettre pour la fin de son quinquennat à un ancien Premier ministre de François Hollande. C'était... Cazeneuve et Faure se détestent. Alors par ailleurs, Cazeneuve et Faure se détestent, je suis d'accord avec toi. C'est vrai. Après, est-ce que Olivier Faure aurait eu les moyens de ne pas trouver de deal avec Cazeneuve ? C'est pas sûr. À voir, c'est à discuter, mais... Bref, tout ça pour dire que l'hypothèse Cazeneuve ne s'est pas concrétisée et que c'est resté une rumeur échafaudée dans des têtes comme la mienne qui réfléchissent à ce genre de truc. Est-ce que c'est pour ça qu'il veut pas de Manuel Valls comme Premier ministre ? Bah, c'est grosso merdo la même raison. C'est grosso merdo les deux mêmes raisons. Manuel Valls est trop marqué du sceau du hollandisme, même s'il a été ministre dans des gouvernements macronistes, d'une part, et d'autre part, Manuel Valls ne s'entend pas avec le PS. Ben voilà, c'est tout. Manuel Valls et Olivier Faure, c'est deux lignes radicalement différentes. Quid du combat Wauquiez-Retailleau, ça va être la guerre. Mais c'est déjà la guerre, mon cher ami. Non, mais attendez, il faut avoir le sens de l'humour pour suivre la vie de la droite. Retailleau-Wauquiez, ils se mettent sur la tronche, ça n'arrête pas. C'est à mourir de rire, j'adore. Retailleau qui prend des positions en bureau national du parti, positions qui ne sont pas respectées par les députés de Laurent Wauquiez. J'adore. J'adore. Mais oui. Retailleau qui dit « Il est hors de question de voter le budget de la Sécu ». Les députés LR, ils ont voté le budget de la Sécu. Enfin, une bonne partie d'entre eux. J'adore. C'est génial. Oh, c'est magique. Est-ce que Hollande et Faure sont d'accord entre eux ? Non ! Non, 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 pas du tout. Hollande et Faure se détestent. Olivier Faure ne voulait pas que François Hollande soit investi candidat en Corrèze. Quand François Hollande a annoncé qu'il serait candidat aux élections législatives en Corrèze, Olivier Faure a dit aux journalistes « Ouais, faut encore qu'on en discute. » Ce à quoi Hollande a répondu « Je n'en discuterai qu'avec la fédération locale du Parti Socialiste de Corrèze. » Voilà. Ah non, non, non. Ah non, Faure n'était pas content que François Hollande revienne à l'Assemblée. Hein. Est-ce que Hollande candidat du NFP ? Alors, pas de tout le NFP, mais Hollande candidat à la présidentielle, attention ! Attention, on en a déjà parlé, je vous ai déjà dit ce que j'en pensais. Ça va peut-être arriver. Il y a un monde dans lequel François Hollande formule une candidature à la présidentielle. Je n'ai pas dit qu'il allait la gagner. Hein. J'ai dit qu'à minima, il présenterait une candidature. Préparez-vous à beaucoup rigoler. Hein. Cette campagne présidentielle va être fun. Villepin, Premier ministre de Hollande, le multivers est en marche. Ce serait drôle. J'ai hâte de la prochaine interview de Glucksmann. Ouais, peut-être qu'il a progressé, Raphaël Glucksmann. Il a visiblement déçu dans sa prestation dans l'émission sur LCI. Bon, on est encore loin de la présidentielle, il peut se passer beaucoup de choses, Glucksmann peut se révéler d'une manière ou d'une autre, j'en sais rien, les circonstances peuvent aider Glucksmann à se révéler d'une manière ou d'une autre, faut voir. Faut voir, on peut être surpris, hein. Est-ce que t'as fait tes prédictions pour 2026 ? C'est impossible de faire des prédictions pour 2026, Tu parles des municipales, c'est ça ? Les municipales, je vous rappelle qu'il y a 36 000 élections le même jour. Compliqué, hein ? prédits, s'il te plaît. 36 000 sondages dans le chat. Bon, les copains, je vais y aller, moi. Je vais y aller, il est déjà 16 heures. Il est déjà 16h, je vous remercie. On va faire un raid chez Klemovic. Hop. Ah merde, ça n'a pas marché. Attendez, je reviens. Alors, je disais quoi ? Je disais raid chez Klemovic. Pardon. Voilà. Des bisous, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été avec moi. On se retrouve demain à 16h pour une FAQ politique. On continue la discussion. D'ici là, rendez-vous au paradis, tout ça, tout ça. Merci d'avoir été là. Je vous fais des bisous. Bonne fin d'après-midi. À demain. Ciao, ciao.
La faiblesse des Européens, Jean-Noël Barrot, c'est aussi...
Ok, ça a parlé du Venezuela.